Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode avec Ilona et Hugo Simon, deux humoristes que j'adore. J'ai hâte que vous écoutiez cet épisode, mais juste avant ça, je voulais m'excuser parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas un épisode qui est sorti. Il y a un petit délai entre les épisodes, mais c'est parce que en ce moment, je donne des cours privés d'anglais et de néerlandais en journée. Ensuite, j'enchaîne avec les scènes de stand-up. J'ai de la chance, je joue pas mal en ce moment. J'ai eu l'occasion de jouer dans plein d'endroits super chouettes et ça, c'est vraiment cool. Donc, je ne me plains pas du tout, c'est juste que je n'ai pas autant de temps qu'avant pour faire des recherches, monter les épisodes, contacter les humoristes et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, merci de patienter entre les épisodes. Si tu veux venir me voir sur scène, je joue donc tous les mardis soirs. C'est moi qui anime la soirée test, donc une soirée où les humoristes viennent tester des nouvelles blagues. Ça se passe tous les mardis à 20h au réservoir. Il y a également les dates de tous les plateaux sur lesquels je vais jouer qui se trouvent sur mon Instagram. Tu peux aller suivre ça sur Régis Canon Humoriste. Et sur Instagram, j'ai également lancé la mission Fréciné. Alors la mission Fréciné, c'est quoi? C'est juste, je vous demande à vous les auditeurs, les auditrices, d'essayer de m'aider à contacter Roman Fréciné. Ça fait des années que j'essaie de le contacter, je lui envoie des messages régulièrement, mais malheureusement, il reçoit pas mes messages. Alors je me dis, si on est plusieurs à le faire, il y a peut-être des chances que ça fonctionne mieux. Donc ce que je te demande, c'est juste, bien gentiment, d'essayer de le contacter aussi. Donc tu lui envoies peut-être un DM sur Instagram, un message sur Facebook. Si tu as son numéro, bah, appelle-le directement, ça va beaucoup plus vite. Si tu le vois à la sortie d'un spectacle, si tu le vois à la sortie d'un plateau, si tu le vois dans la rue, tu peux lui dire « Hey, il y a Régis Canon qui essaie de te contacter, il a un podcast qui est sympa. Moi je l'écoute, je trouve ça cool. Ça serait chouette de t'entendre là-dedans. » Tu peux commenter ça sur ses vidéos, tu peux commenter ça sur ses posts Instagram. Je veux du stalkage, mais gentil. Un petit message sympathique. Si tu commences à le suivre dans la rue, c'est que t'as été beaucoup trop loin. On ne veut pas ça. Ça marche? Si t'as pas envie de stalker un génie du stand-up, ce que tu peux simplement faire, c'est t'abonner au podcast, mettre 5 étoiles sur le podcast, le partager à tes amis, le partager en story, montrer à tout le monde que tu écoutes ce podcast. Et ça, ça fera plaisir parce qu'il y a d'autres gens qui vont découvrir le podcast. Et moi, plus il y a de gens qui écoutent le podcast, plus je suis content. Je t'avoue. Voilà, je pense à moi aussi, c'est bientôt mon anniversaire, si tu veux me faire un cadeau, ben écoute le podcast, c'est un bon cadeau ça. En plus c'est un cadeau qui te coûte pas grand chose, hein, en vrai, ça coûte même rien. Hein. Voilà, allez, des bisous.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois deux humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois la plus belle voix du stand-up game, une stand-upeuse qui cartonne sur tous les plateaux, mais qui n'est jamais contente de son passage. Je reçois aussi l'humoriste le plus énergique de Belgique, une des 30 personnes originaires de la ville de Bastogne. Et je reçois aussi le premier couple de l'histoire du podcast Humeur Humoristique. Je reçois Ilona Dufresne et Hugo Simon. Comment allez-vous?
Ça va et toi?
Ça va, trop bien, c'est trop cool. Très content d'être là.
Incroyable.
Ça va, la présentation, je ne vexais personne.
Non, c'est incroyable, j'aimerais bien la voir après, s'il te plaît, je vais la mettre en bio en stage.
Mais ça, je vous ai pas prévenu pour les laisser un petit peu de place à l'improvisation, mais je vais vous demander de vous présenter l'un l'autre. Est-ce que vous pouvez présenter un peu l'autre? Quel type d'humoriste il est? Comment il est avant une scène? Comment il est sur scène? Son genre d'humour? Donc plus l'humoriste que la personne, mais...
Ah, génial. Ok.
Dites-moi.
Je peux faire ou pas?
Vas-y, commence.
Je vais être excité. Ok. Alors, Hugo c'est quelqu'un qui, avant, pendant et après les scènes, a toujours la même énergie. C'est vraiment, tu sais pas percevoir s'il est plus stressé pour quelque chose ou pas. Genre, on a fait une très grosse scène en septembre et aucun stress montré. Et t'as une espèce d'attitude un peu nonchalante. Ah, je sais pas, c'est un génie, quoi. J'adore. Il est trop fort.
Et sur scène, le style d'humour, un peu ce qu'il y a.
Moi, je sais que t'aimes pas du tout quand on dit ça, mais je trouve que ça aussi, entre l'humour noir et l'humour très intelligent, j'ai pas de comparatif parce que je pense que t'es un peu le seul qui fait ce style-là.
C'est flatteur.
C'est flatteur.
C'est flatteur. Objectif, j'en sais rien.
C'est vrai qu'on n'est pas sur les plus objectifs. On est quand même sur un couple qui veulent pas se foutre la merde.
T'imagines.
Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est un peu faible, mais voilà, il fallait.
Mais il est mignon.
Il est mignon. Ok. Et Ilona.
Alors Ilona, je l'ai vue la première fois où on n'était pas encore ensemble, donc c'est quand même une des premières humoristes qui m'a marqué, où je me suis dit ah tiens ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'elle propose et tout. C'est quelqu'un qui est vachement stressé quand même avant la scène et qui est très rarement contente d'elle après la scène, même quand ça s'est bien passé. Quand ça s'est très bien passé, je crois que là elle sait quand même le dire et qu'elle prend du plaisir sur scène, sinon elle le ferait plus. Mais c'est vrai qu'elle est très rarement contente de sa prestation, et en fait je crois que y a beaucoup de gens qui lui disent il faudrait arrêter, il faudrait être contente, mais en même temps c'est son moteur, quoi, parce que même si elle est contente, elle se repose pas là-dessus et elle continue à bosser, donc je crois que c'est son moteur. Elle a un truc très personnel qu'on retrouve chez pas grand monde, qui bon, elle se rapproche peut-être un peu de Dooley, ça fait un peu penser au niveau de la voix et du truc, etc. Sa force, c'est ce truc que ce qu'on retrouve chez Ilona, on le retrouve chez personne d'autre, quoi. Donc je trouve qu'elle dénote sur un plateau.
Ok. Et de quoi vous parlez un petit peu l'un l'autre sur scène?
Hugo, il parle fort d'informations, finalement. On va dire, Hugo, il parle pas de lui. Okay. Sur scène. Et ça, c'est rare. Il y a quand même beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, dans le stand-up, on commence tous un peu par la petite présentation et tout. Hugo, ça dure juste, je m'appelle Hugo Simon, et hop, et après, il balance vraiment des informations, il détourne un peu. Moi, j'ai l'impression, c'est un peu du détournement d'informations de faits belges et aux alentours, et de ses magnifiques origines ardennaises, quoi.
Nice. Je crois que pour Ilona, ça part beaucoup d'autodérision, parce qu'elle est quand même fort comme ça, même dans la vie de tous les jours, où elle rigole d'abord d'elle avant de rigoler des autres, et il n'y a pas vraiment de vanne sur d'autres personnes, c'est un peu une parodie d'elle-même, quoi. Une blague où, enfin, elle fait beaucoup de blagues sur elle, sur sa famille, sur tout ce qui n'a pas été, les études, etc. C'est un peu l'apologie de l'échec, comme ça, entre guillemets. Ça, hein.
C'est beau. L'apologie de l'échec, ça peut être un bon titre de spectacle aussi.
À fond.
J'aime bien.
De livre.
Ou de livre. Ouais. Ça sera tes mémoires. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Est-ce que vous êtes des consommateurs de podcasts, que vous écoutez beaucoup
de
ça?
Moi, de ouf.
Toi, de ouf?
Ouais, de ouf. Okay. Mais toi aussi, en fait. Mais
ouais, d'un truc très, très serré. Genre, moi, j'écoute que des podcasts de crime, quoi.
De crime?
Ouais.
Okay.
Donc, le coin du crime et tout, je sais pas si tu connais, c'est des trucs où, en fait, on te raconte un crime. Ça dure 50 minutes, donc c'est parfait pour la route entre Bastogne et Bruxelles. J'en écoute deux. Et je connais, genre, tous les crimes qu'il y a eu en France.
Mais il faut quand même dire aussi que la chaîne de podcast que t'écoutes est super nulle, mec. Le mec s'exprime trop mal. Et c'est vraiment un truc où chaque fois il remercie d'abord les trois personnes qui
il remercie d'abord les trois auditeurs qui sont, parce qu'il y a trois personnes qui payent, qui sont premium, et donc merci à Sylvie, Gauthier
et Hugo.
Et c'est vraiment tragique parce qu'il raconte des trucs, et il y a plein de moments où on se dit comment il sait ce genre d'infos. Depuis, c'est des trucs un peu inventés, tu vois.
Ah, trop marrant.
Et franchement,
du coup, je vais en profiter pour dire merci Julie, merci.
Ouais, c'est ça. Et le storytelling est bien et tout, et moi j'aime bien avoir des trucs de...
Il n'est pas d'accord.
Pas du tout, le storytelling est absurde, vraiment. Le mec a l'air hyper emballé de raconter des trucs super glauques, c'est très bizarre.
Voilà.
Et toi, Ilo, t'écoutes quoi?
Moi, j'écoute vraiment tout. J'ai écouté beaucoup des podcasts humoristiques. J'ai écouté Un Bon Moment fois 1000, mais c'est aussi un peu de l'humour. J'ai écouté aussi des histoires de crimes, et il y en a un qui n'existe plus. Qui était trop bien, qui s'appelait Les Carnets du nouveau détective, c'était vraiment trop stylé. J'écoute aussi des trucs, j'ai écouté Les Couilles sur la table et tout, beaucoup plus de trucs engagés, voilà quoi, un peu beaucoup. Mais j'aime bien commencer un truc où je me dis, ok, je vais écouter du premier épisode jusqu'au dernier, et tout ce que je fais, je commence, mais je finis jamais. Du coup, j'ai commencé plein de podcasts où j'ai mis genre, ok, je suis, pour écouter plus tard, et j'écoute jamais. Du coup, je suis intéressé par beaucoup de podcasts, et je vais très peu jusqu'au bout des trucs.
Okay.
Voilà.
Ça marche. Mais vous m'avez tous les deux dit que vous aviez écouté un petit peu le podcast.
Mmh. Ouais, ouais.
Alors, on a démontré en faisant le fil que vous n'écoutiez pas jusqu'au bout de l'épisode.
On s'est cramé tout seul. Ah ouais, trop bien.
Ah ouais, tu fais ça. Ouais. C'est nouveau, ça. C'est depuis le premier épisode.
Ah, la honte.
Mais avant de revenir sur vos parcours, j'ai envie de parler de vos actualités parce que vous travaillez tous les deux sur votre premier spectacle. Ouais. Donc, Ilona, t'as annoncé les premières dates de ton spectacle qui s'appelle Grave aux Petits Kings. Elles ont été sold out en très peu de temps. Moi, j'ai vu ça passer, j'étais là. là, oh, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce spectacle et comment s'est passée la première, le 4 janvier, si je me rappelle bien?
Absolument. Ouais, t'es hyper bien informé, c'est super. Bah, écoute, du coup, ce spectacle, il parle de... Tout part un peu du point de départ qui est ma life et tous les échecs et tout ça. Et du coup, c'est vraiment une apologie de l'échec. C'est un peu pour expliquer que l'échec, c'en est pas un, en fait. C'est que c'est pas une fin en soi. Je sais pas expliquer, mais genre, grave, la conclusion que j'aimerais amener, c'est que, en fait, c'est pas grave de rater. Et grave pour ma voix et pour d'autres trucs. Et le fait que, beaucoup de fois dans ma life, mes proches étaient en mode, mais c'est super grave de pas y arriver. Et au final, c'est un peu dénoué tout ça, quoi. Ça parle aussi beaucoup des One Direction.
Ok.
Il fallait qu'ils aient une place importante là-dedans.
Ah, j'ai pas encore vu cette partie-là. Non. Oh, j'ai hâte. Ça, c'est quelque chose que tu rôdes pas sur les plateaux, que tu gardes?
Non, parce que c'est avec mon journal intime, mais je sais pas si tu l'as déjà vu.
J'ai pas vu cette partie-là, non.
Non, je pense pas.
Ah, cool. Mais faut vraiment que j'aille voir le spectacle. Mais du coup, comment s'est passée la première et les suivantes?
Bah, pas ouf, moi, okay. Je crois. Les gens étaient contents, mais en fait, c'est très compliqué parce que c'était beaucoup de mes proches qui sont venus.
Okay.
Enfin, voire exclusivement. Je crois que dans les deux séances, au total, il y avait peut-être 15-20 personnes que je connaissais pas, quoi.
Okay.
Sur les 84 au total qui sont venus, donc c'est quand même...
Ouais, c'est l'avantage de connaître pas mal de monde.
Oui, mais du coup, le jugement est super biaisé parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils savent de moi. Du coup, c'est un peu... L'échantillon est un peu étrange, je pense. Les gens étaient contents, ils ont dit que c'était chouette. J'ai jamais été aussi stressé de ma vie, je pense. C'est vraiment un moment où j'ai dit « je vais pas y aller ».
Ok.
Vraiment, je voyais Gaëtan qui était sur scène parce qu'il m'a un peu accompagné à la première. Et je l'ai vu sur scène et moi, je me suis dit, mais je passe un très bon moment en le regardant lui. J'ai absolument pas envie de monter sur scène. Et au final, ça a été, je pense, c'était pas incroyable et il y a encore beaucoup de taf, mais c'est ça qui est cool, quoi.
Ok. Mais le problème, c'est que je le mets par le filtre de « Ilona n'est jamais contente de son passage ». Du coup, il faut se dire, quand elle dit « c'est pas ouf », c'est que c'était vraiment bon. Et si elle dit « c'était bon », ça veut dire que c'était exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est qu'elle ment, en fait. Non, c'est vraiment très très bon. Ok, mais j'ai hâte de voir le spectacle. Hugo, toi, pareil, t'as lancé ton premier show qui s'appelle « Merci, Danku » au Petit Kings. Est-ce que tu peux nous parler un peu du spectacle aussi et de comment s'est passé les premières? Toi, c'était le 3 janvier.
Ouais, donc c'était un jour d'intervalle. Hein, on a commencé le stand-up plus ou moins en même temps et... Donc, bah, les étapes se font de la même manière aussi. Donc, c'est un spectacle. Donc, moi, j'essaye d'endosser un peu le truc de premier journaliste qui fait de l'humour. Enfin, premier journaliste qui admet qu'il raconte des blagues. Et donc, c'est un peu aussi une parodie du journalisme. Et donc, c'est beaucoup de... Je pars de faits. À chaque fois aussi, je sors un truc de l'actualité pour en faire un passage que je poste après sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est beaucoup de sorte de constatation des absurdités d'abord de la Belgique. De Bastogne et du monde qui nous entoure. Et donc, la première, c'était le 3. Donc, on a fait une double séance directement. C'était avec l'humoriste PE. C'était très bien, très chouette. C'était mieux 19 que 21. Et ça, c'est un peu compliqué. Vu que 19, ça se passe bien, tu te dis, c'est d'office que ça va pas se passer aussi bien à 21. Et donc, il y a un peu cette comparaison. Et là, on a fait la troisième avec Lorenzo. Et c'était très chouette parce que là, bah, vu que moi, je viens pas de Bruxelles, j'ai très vite épuisé mon portefeuille d'amis à Bruxelles. Et donc, c'était que des gens que je connaissais pas. Et,
okay, nice.
Et c'était trop cool, quoi, franchement. Quand t'es 30 minutes devant les gens, enfin même plus 40 là cette fois-là, tu peux créer une histoire avec les gens et tout, et c'est trop cool. J'essaye de faire beaucoup plus d'interactions et tout qu'en plateau, donc c'est cool.
Ouais, donc pour expliquer un petit peu, comme c'est un spectacle qui est en création, vous proposez plutôt une demi-heure 40 minutes avec un humoriste qui vous accompagne, qui propose également une demi-heure 40 minutes. Ainsi, les gens qui viennent ont un spectacle longue forme, un peu comme on a l'habitude de le voir. Et je pense que vous avez fait aussi les premières parties l'un de l'autre.
Ouais, c'est trop mignon.
Est-ce que c'est cringe ou est-ce que c'est mignon?
J'en sais rien. Un mélange des deux, probablement.
Mais du coup, ça me permet de vous poser la question, c'est comment d'être un couple qui fait du stand-up? Parce que je pense que vous êtes le premier couple. Ah, déjà le premier couple dans
le
podcast.
Non, il y a Aymeric Lompré et Douli qui doivent sortir ensemble. Moi, je suis sûr qu'ils sortent.
Ah, ça, c'est parti. La rumeur est lancée. Vous l'avez entendu ici pour la première fois. On leur souhaite.
Je veux que ce soit
Fadili et.
Fadili et Hakim.
Et Hakim Djemili.
Ah, eux aussi, ils sont incroyables. Ils ont un gosse même.
Bon, ok, bah, vous n'êtes absolument pas le premier couple.
Non, pas du tout originaux.
Vous n'êtes pas originaux du tout. Mais vous êtes le premier couple, en tout cas, que je reçois. Et du coup, j'ai envie de savoir si ça marche comment cette dynamique d'être un couple qui fait du stand-up.
En vrai, on a une dynamique qui est assez saine, je pense, parce que c'est un milieu qui peut vite devenir un peu bouffant, je pense, si j'exagère pas sur les mots. Entre nous, j'ai pas l'impression qu'on parle tellement de ça. Enfin, on parle pas énormément de stand-up, et en tout cas, on travaille presque pas ensemble.
Ouais, c'est ça. On essaye d'en parler le moins possible. Je crois que c'est quand même un milieu où il y a beaucoup ce... Même si t'as un bon ami dans le milieu, t'as un peu ce souci de comparaison qui arrive rapidement. Là, heureusement, je sais pas pourquoi, le hasard fait que... Bah,
tout en même temps, quoi.
Ouais, les étapes arrivent en même temps, et souvent si on demande à l'un, on demande à l'autre, mais c'est vrai que des fois, bah, il arrive que l'un, dans des concours par exemple, l'un est repris et pas l'autre.
Ah, terrible.
Et l'inverse, ça c'est plus compliqué, parce que bah, y en a un qui est content, qui fête son... qu'il a réussi.
Et dès que t'es content, t'es quand même triste pour l'autre.
Ouais, enfin, c'est ça.
C'est trop bizarre.
Et en même temps, tu dois être content pour l'autre, mais toi, t'es triste parce que personnellement, ça n'a pas été. Donc, des fois, c'est compliqué.
Ouais, c'est déjà ce que j'aime pas sur les concours en
ouais,
général.
Ouais, de manière générale, mais parce surtout que... dans l'humour, quoi.
Dans l'humour, oui, mais en fait, t'es avec des potes, puisque on se côtoie tous.
Ouais.
Et tu vois qu'il y en a un qui est pas pris, donc en soi, t'es dégoûté pour lui, mais tu te dis, s'il est pas pris, il y a peut-être une place pour plus pour moi.
Ouais.
Du coup, c'est un mix bizarre.
Malsain, quoi.
Malsain de ouf, ouais.
C'est un milieu, ouais, où ça se passe un peu comme ça. Et donc, bah, on essaye d'en parler le moins possible et on travaille pas ensemble. Parce que vu qu'on se connaît trop, c'est assez exposant, en fait, de...
L'enfer. Si tu me dis qu'une vanne que j'ai écrite est nulle, je vais le prendre tellement plus personnellement que si je bide devant 50 personnes, quoi.
Ok, ouais.
Je suis méga pudique vis-à-vis de ce que j'écris. Toi, un peu moins, je crois.
Ouais, c'est ça. Des fois, je lui explique quand même, etc. Mais des fois, ça déforce parce qu'on explique la blague. Elle va dire c'est nul, tu l'as fait le soir et ça marche bien, quoi. Donc en fait, des fois, peut-être qu'on a supprimé des vannes parce que l'autre a dit, bah, moi, je crois que c'est pas ouf, alors que le public aime bien. Et vu qu'on n'a pas du tout le même style non plus sur scène, bah, je crois qu'on peut, ouais, on peut s'apporter un peu des trucs, mais au niveau du texte, pas vraiment, quoi.
Parce que c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai un truc nouveau à tester, je le teste toujours sur ma copine.
Ouais, c'est sûr.
C'est d'office parce que je veux avoir un avis de quelqu'un. C'est vrai que parfois, je retire des trucs que peut-être ça aurait fait rire le public, mais en même temps, je fais confiance à son avis. Je me dis, si ça la fait pas rire déjà elle, ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais pas assez. Ça veut dire que c'est quand même pas assez fort, mais peut-être que des fois, je pourrais la garder, l'essayer, essayer de l'améliorer et après lui reproposer une version mieux travaillée.
Ouais, c'est ça. Moi, je crois que le filtre est mieux avec ta copine vu qu'elle fait pas partie du milieu, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais. Nous, on fait du stand-up, il y a déjà beaucoup moins de choses qui nous font rire.
Ça c'est hyper vrai.
Et donc des fois elle me dit un truc et je suis là bah oui mais c'est simple et en fait ça fait rire les gens quoi parce que
il faut pas oublier que les blagues de Prout c'est les meilleures blagues du monde.
Ouais, c'est ça.
Des fois il faut pas se casser la tête moi je crois.
Eux ils voient pas la mécanique qu'il y a derrière la blague donc en soi ouais des fois. Mais donc avec ta copine je crois que c'est plus juste vu qu'elle est publique quoi.
Ok. Et comment vous envisagez la suite de vos spectacles respectifs? Donc là vous avez un 40 minutes, un 30 minutes vraiment que vous aimez beaucoup. Comment vous envisagez la suite pour avoir le spectacle complet, le tourner avec et tout ça?
Ah, c'est marrant, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans la voiture et moi j'avais vraiment une vision hyper bête du truc. J'étais là, ah, c'est bien pour l'instant, je m'amuse bien. J'ai pas du tout, enfin, je vise à l'amplifier, à le rendre au format de 1 heure, ça d'office, mais je réfléchis pas du tout au plan de carrière que ça pourrait être. Et ça, j'avoue que c'est peut-être l'utopie dans laquelle je vis dans ma tête de me dire que. Je sais pas à réfléchir et j'ai peur de projeter, je pense aussi. J'ai peur de projeter, de peur d'être déçu et si ça se fait pas, ou tu vois, pour moi, le stand-up pourrait s'arrêter demain sans que je le sache, quoi. Du coup, je suis en mode. En fait, je pense que c'est plus, j'ose pas me demander où ça peut aller.
Mais du coup, l'avantage, c'est que t'es dans le moment aussi. Tu profites de ce qui se passe, de ce qui arrive.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Et tu t'inquiètes pas de ah, punaise, ça n'évolue pas. Bah, par exemple, moi, si je me compare avec le spectacle, je me dis ah, il y a plein de gens qui sortent un spectacle. Moi, j'ai un 40 minutes, j'ai pas l'heure. Est-ce qu'il faut que j'arrive à trouver quelque chose? Et quand j'arrive pas à écrire, je suis là, oh, putain, j'arrive pas à écrire un spectacle. Est-ce que je suis vraiment fait pour faire de l'humour? Les gens, ils écrivent des heures tous les ans. Moi, j'ai fait 4 ans, j'arrive pas à en écrire.
Ouais, ça fait peur, hein, comme dynamique. Mmh,
ouais.
Ouais.
Parce que moi, j'arrive pas à être dans le moment de pas m'inquiéter sur la suite. Tu vois.
Bah, c'est pas pour autant que j'arrive à 100% à être dans le moment, vu que je suis jamais spécialement contente de ce que je vis sur scène. Donc, il y a aussi un peu ce. Comme si j'étais dans le déni, mais que je faisais rien pour m'aider, comme ça, tu vois pas. Okay. Du coup, en vrai, je crois que c'est un peu un moteur, mais aussi des fois vachement un frein. Mais bon, voilà.
Mais c'est vrai que le truc de quand tu descends de scène, je l'ai mis dans la présentation parce que c'est vraiment le truc qui marque.
Mais tout le monde dit ça, mais c'est vrai. Je savais pas que c'était vrai. À ce point-là.
Mais c'est parce que souvent, je me dis waouh, elle a fait un passage, elle est trop forte, j'aime trop son style, elle est trop balèze, les gens rient et tout. Et tu t'arrives et tu fais. Ah, c'était pas bien, j'étais là, ta gueule.
Ouais, c'est
un truc.
En vrai, c'est hyper énervant, je me détesterais, je pense.
Mais tu vois que le pire, c'est que c'est pas un truc de tu le dis pour qu'on te fasse des compliments, tu vois,
non,
c'est vraiment, tu le ressens comme ça. Mais il y a des fois, je me suis dit, mais enfin, elle ne le voit pas. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont le problème complètement inverse. Ouais,
ça, c'est plus fou.
Ils sont
ça,
complètement
fou.
À côté de la plaque, il y a personne qui arrive, ils descendent et font. Bonne soirée. Hein.
Ah ouais.
J'aimerais trop que le name dropping soit maintenant. Tu bipes. Non,
justement, on parlait de. On va pas faire ça.
Non,
c'est le podcast du compliment, ne faisons pas ça. C'est pas la peine. Et toi, Hugo, comment tu vois la suite pour
Je crois qu'on n'a pas du tout les mêmes... À ce niveau-là, on ne réfléchit pas trop de la même manière. Donc, moi, c'est quand même vachement plus fixé, etc., dans le temps où j'ai envie de continuer ce truc-là, mais j'ai laissé beaucoup de temps. Je crois que j'ai commencé en 2020... On a commencé quand ? 2022, le stand-up. Et très rapidement, je me suis dit, OK, pour 2025-2026, j'aimerais avoir un spectacle, mais j'aimerais écrire 4-5 heures et en ressortir une heure avec un fil rouge, etc. quoi.
Okay.
Donc là, par exemple, il y a peut-être 30-40 minutes, mais que je voudrais pas garder. Enfin, c'est pas les 30-40 minutes.
Ah, tu veux pas garder ces 40 minutes?
Bah, j'aimerais bien le resserrer pour que ça fasse 20-25 et puis réécrire. Enfin, en fait, je partais du truc que j'écris une heure par an.
Okay.
Et que chaque année, il y a qu'un quart d'heure de trait que je trouve très bien et qui me plaît, que je garde, quoi. Et donc, je voudrais que le spectacle, ce soit 4 fois ce quart d'heure, tu vois.
Ah, waouh.
Donc, c'est beau, ouais, c'est plus...
Mais c'est excellent, hein, parce que
c'est
des fois, il me parle de comment va être son spectacle et il sait déjà qu'à la fin, il veut que ce soit une boîte de nuit, quoi.
Ouais, bah, par exemple, j'ai déjà un peu le fil rouge en tête du spectacle.
Okay.
Et en gros, j'ai noté une date dans mon agenda. C'est genre en septembre 2025. J'aimerais bien faire la grosse salle à Bastogne, tu vois.
Okay.
De 600 personnes et j'aimerais bien que ce soit la première, en fait, du truc. Donc, j'aimerais bien travailler à Bruxelles, jouer aux Kings, aux petits Kings, le spectacle, et qu'une fois que pour moi, au niveau mise en scène et tout, c'est bon, j'aimerais bien le faire commencer à Bastogne et puis faire un petit truc en Belgique, quoi, même.
Ok.
Et il a déjà réfléchi à des mises en scène sur des détails. Genre, il y avait un truc que tu m'avais expliqué en mode, et là, on m'annonce, alors que c'est fini. Et c'est une boîte de nuit. Tu biperas si tu veux pas que ça sache.
Ouais,
mais...
si tu veux pas qu'on...
Non, mais c'est
et
très bien.
Et à un moment, les gens prennent dans le dessous de leur siège une bière qui était là depuis le début. Et genre, c'est un truc que j'ai là, ça n'a aucun sens.
Donc ouais, c'est déjà...
des petits frigos qui ont l'air des frais.
Et là, je m'en fous sans alcool.
C'est ça. Okay. C'est déjà très... très...
Ah, waouh.
Très clair, mais après, le matériel, je trouve que je l'ai pas encore pour cette idée, quoi.
Ok.
Mais j'ai envie de voir un truc... Moi, je suis pas trop friand du... J'écris une heure de blague, je l'ai dit, et puis je jette. Et puis, enfin, tu vois.
Ouais.
Je suis plus en mode, OK, les gens, ils ont payé, il faut leur raconter tout un truc qui... Enfin, je trouve que pour ça, par exemple, j'ai été voir le spectacle de Dena, et je trouve que, bah voilà, à ce niveau-là, c'est ce qui se faisait de mieux.
Okay.
Mais je trouve ça assez dommage qu'il y a que le TTO et que Bruxelles qui l'ait vu, alors que...
Elle commence à tourner un petit peu en France. Mais c'est vrai que maintenant,
elle passe déjà
nouveau, ouais, c'est vrai.
Avec du nouveau, et je suis là en mode, ce spectacle, tout le monde devrait le voir, quoi. Genre, en Suisse, en France et tout, genre, ça devrait être une rockstar, mais c'est juste le truc...
Ouais, ça prend du temps de développer le truc, quoi. Mais...
Pour moi, elle a sûrement un meilleur spectacle que des gens qui remplissent des zéniths toutes les semaines, quoi, tu vois, même.
Oh, waouh, la bonne pub pour Dena, ici.
Ouais.
Elle est en train d'écrire son nouveau spectacle, donc elle vient tester un petit peu dans les soirées et tout. Bah, elle est trop forte. Hein.
Mais c'est déjà trop marrant. Moi, je suis là comment c'est possible. C'est trop fort, quoi.
À fond. Mais c'est marrant de la revoir... parce que moi, j'organise des soirées test le mardi avec le What the Fun. Et du coup, c'est marrant de revoir Dena en mode, tu sais, pas sûr. Ah, je vais tester un truc, elle l'écrit, elle le renote avant de passer, elle le relie. Que quand on a l'habitude, bah, tu la vois qui monte sur scène, elle fait son passage qu'elle connaît bien. Il n'y a pas cette inquiétude de est-ce que ça va marcher, comment ça va passer. Même dans comment elle regarde le public de, OK, celle-là, ça fonctionne bien, celle-là... On voit le travail en évolution, je trouve ça trop cool.
Mais en fait, c'est comme si tu recommençais le stand-up, quoi.
Oui, vraiment, c'est le même sentiment.
C'est des cycles, quoi, tu recommences. Et c'est le plus dur, je crois. C'est que quand ça a marché, c'est repartir sur quelque chose qui en fait, ne va peut-être plus marcher, quoi. Alors que t'as tourné pendant un an où les gens sont sortis de ton spectacle tous. Enfin, je connais personne qui a été voir le spectacle et qui a dit bof. Et là, elle doit repartir au début où elle va faire des plateaux devant 50 personnes qui vont peut-être pas rigoler, quoi. Donc,
c'est ça.
Les attentes que t'as vis-à-vis de toi-même et que tu ressens des autres, c'est quand même aussi une pression, quoi. Moi, c'est un truc que ça me stresserait trop.
C'est comme quand t'as un passage super rodé et après tu te dis, bon, je vais aller tester un nouveau truc et tu le testes et tu fais, j'aurais dû faire mon truc rodé.
Et t'as l'impression que t'es devenu nul.
Ouais.
C'est trop bizarre, ce truc.
C'est, bah, c'est cyclique, mais après tu sais que ça revient, mais c'est pas évident. Ouais. Et Hugo, toi, tu nous quittes dans pas longtemps pour la Suisse.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on perd Hugo Simon?
Alors, je pars le 5 février, donc c'est tout bientôt. Là, je pars pour 3 mois. Donc, en fait, moi, je fais des études de journalisme à côté, d'où le perso journaliste qui raconte des blagues. Donc, en fait, j'ai directement voulu trouver un stage où je pouvais expérimenter le stand-up ailleurs. Donc, j'ai essayé le Canada. Pour le stage, c'était compliqué, vu que le journalisme, ça reste quand même un milieu un peu... bouchées où il n'y a pas énormément de débouchés, justement. Et après, je me suis lancé sur la Suisse. J'ai eu la chance de trouver direct. Et en fait, j'avais vraiment envie... En fait, maintenant, ça va faire presque 2 ans au moment où je serai en Suisse que je fais du stand-up en Belgique. Au niveau des plateaux, vu qu'on fait que des plateaux et que moi, dans ma tête, c'est très clair que le spectacle, c'est pas du tout pour maintenant. Mmh. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour de, ok, à Bruxelles, j'ai joué là, à Liège, à Charleroi. Et des fois, je refais des trucs pour la 2e ou 3e fois. Et donc, je me dis, ouais, je crois que j'ai un peu fait le, au niveau plateau, j'ai un peu fait le tour du truc. Et souvent, les 2e fois sont moins bien, quoi, tu vois. Enfin, okay. Tu fais un truc que t'as attendu longtemps. Ah, je pensais au mercredi de rire de Soum, tu vois, à Charleroi, c'est un truc, Soum, c'est un humoriste que je connaissais déjà avant de faire de l'humour. Et quand il m'a invité la première fois, c'était dingue et tout. Et la deuxième, bah, il y a toujours cette saveur de c'est plus aussi, tu vois, c'est plus la première fois, etc. Et donc, je trouvais que j'avais un peu fait le tour de la question et j'avais envie de voir un... Vu que je parle beaucoup de la Belgique, j'avais envie de voir un autre public, de me confronter à autre chose.
Te forcer à devoir écrire de nouvelles choses.
C'est ça.
Aussi, parce que
ouais.
Tout ce que tu as sur la Belgique ne fonctionnera pas.
Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, j'ai joué en Suisse et je dois maintenant dans mon texte, j'ai écrit Belgique ou universel. Et en vrai, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont universels parce que les trucs sur la Belgique, les routes sont dégueulasses, qu'il y a des travaux, etc., ils l'ont aussi en Suisse, enfin, ils le savent. Donc, il y a même des trucs qui les font plus rire. Si tu fais l'accent belge, ça fait plus rire en France et en Suisse qu'en Belgique. Mais il y a des trucs que, ouais, par exemple, que je dois enlever parce qu'ils n'ont pas les refs là-bas. Mais ouais, je trouve que ça me force à écrire quelque chose de plus universel et de changer de public, quoi.
Et tu vas où en Suisse exactement?
Donc moi, je vais vivre à Genève et j'ai la chance d'avoir un humoriste là-bas que je connais. Donc j'ai déjà qui me book sur les plateaux en même temps que lui. Ça va, j'ai déjà quelques dates. Mais en vrai, c'est cool. Il y a des humoristes belges qui viennent à Genève, faire leur première partie là-bas, etc. C'est cool.
Ça va. Et vous avez aussi tous les deux la soirée Blague jour 1 au Mouderlambic, qui est le concurrent. Concurrent direct, le mardi soir. Aussi une soirée test, aussi une soirée de première fois qu'on fait des blagues. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette soirée que vous animez tous les deux en alternance, je pense.
Vas-y, Hugo, je te laisse.
En gros, c'est une soirée... c'est soirée... Je sais pas si t'as déjà parlé de ta soirée dans ton podcast, mais c'est une soirée qui est vraiment dédiée aux tests, parce que c'est ce qu'on disait justement, quand t'arrives avec un truc qui fonctionne, t'arrives sur des plateaux qui sont à chaque fois nouveaux, et en fait t'as pas le choix que de faire ton rodé, parce que tu peux pas te casser la gueule sur ces plateaux-là. Et donc à un moment t'arrives où il y a plus d'endroit pour pouvoir tester, quoi, parce que soit les gens payent, soit les gens ont des attentes, soit c'est la première fois qu'ils te voient. C'est Nikos et Juan qui avaient cette scène au début, et en fait c'est vraiment, ça te permet, c'est une safe zone pour te casser la gueule, quoi, pour tester et dire ok, si ça marche pas c'est pas grave. Et ce que je trouve bien, c'est que les conditions sont... Enfin, les conditions sont vraiment en mode... Ouais, c'est très dur, quoi. Genre, il y a juste un baffle,
okay, ouais.
Un micro, il n'y a pas de musique.
La salle est éclairée.
Ouais, on est à même le sol. La salle est éclairée, les gens sont face à nous. Je trouve que le baromètre, il est bien pour savoir si c'est bien
ça
ou pas.
Ça marche
quoi.
Ou pas, ouais, à fond.
Tu peux faire un... En fait, c'est toujours la soirée... Moi, je le dis toujours, c'est toujours la soirée où la journée était là. J'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller. Et quand tu rentres, c'est la soirée qui t'a apporté le plus, quoi, parce
c'est vrai.
Elle est en mode, ok, là j'ai écrit 5 minutes, ces 3-là, là je les garde et je développe, le reste je jette. Et ça va très vite. Hein. Et ça fait mal parce que, à un moment, t'es plus trop habitué à galérer ou tu sais qu'il y a des zones sur lesquelles tu peux te reposer parce que ça va rigoler. Mm-hmm. Et là, il n'y a plus quoi. Donc,
Là, il n'y a plus de gilet de sauvetage. Genre. Mais c'est vrai que c'est très, très cassage de gueule contrôlé comme ça, cette scène.
Mais est-ce que vous en profitez, vous aussi, comme vous animez, de venir tester de nouvelles choses à chaque fois?
Ouais, on en profite aussi. Mais ça fait un peu mal à l'ego, hein. Fait tellement peur, moi, mais je pense que j'ai vraiment un problème avec le stress. Moi, quand j'y vais à cette soirée, j'ai envie de disparaître avant. Mm-hmm. Et le public, pourtant, est trop sympa. Ils savent ce qu'ils sont venus voir, ils sont hyper enjoués par l'idée. Donc franchement, c'est une soirée qui fonctionne de ouf, quoi. Mais bon, c'est vrai que le réservoir, ça remplit tout autant aussi, non?
Ça commence à marcher pas mal. On avait une moyenne de 30 personnes, mais depuis la rentrée ici, on a 50 personnes à chaque fois.
Ah ouais, c'est trop bien.
Donc c'est trop cool. Mais c'est vraiment, moi je profite pour tester à chaque semaine, en tout cas j'essaie de le faire à chaque semaine.
C'est dur hein, toutes les semaines.
Je suis le premier qui anime la soirée, j'explique un peu la soirée, je fais un petit test pour leur dire c'est un peu ça l'ambiance de la soirée. Mais quand mon test ne marche pas du tout sur un 2 ou 3 minutes et qu'après je dois continuer à présenter et faire yeah, veuillez accueillir le suivant, il s'appelle.
Ah ouais.
Et je suis là, j'ai envie de mourir. maintenant, tout de suite. J'aurais pas dû faire humoriste, je le savais.
C'est abusé à quel point on ressent tous la même chose. Et c'est ça que je voulais dire, je me souviens. Mais pour Black Jour 1 ou pour Réservoir Test, c'est trop cool parce que ça aide à désacraliser le fait de bider. Parce que moi, il y a eu toute une période où j'étais là, waouh, mais en fait, j'ai eu vite un 10 minutes qui passait bien. Et du coup, j'avais très peur de tester parce que très peur de me rendre compte qu'en fait, peut-être que j'avais juste un 10 minutes qui passe bien. Et du coup, là, ça m'aide tellement de pouvoir tester et me dire, ok, se casser la gueule, c'est pas grave. Et le fait de le faire à Black Jour 1 ou au Réservoir Test, ça m'aide de le faire des fois, du coup, dans d'autres plateaux. J'ose plus, quoi.
Okay,
ouais. Genre, je pense que c'est important pour beaucoup de gens.
À fond. Mais moi, j'ai souvent les retours des humoristes de ah, merci, quand est-ce que je peux la refaire? Parce que j'ai envie de tester un truc, mais c'est un 2 minutes. Et des fois, c'est juste une idée. Mais moi, j'ai déjà fait, genre, soirée test, je fais j'ai envie de parler de ça, mais j'ai pas de blague, mais j'ai envie de voir juste est-ce que ça accroche l'attention, est-ce que les gens se disent ah, j'ai envie de savoir ce qu'il en pense ou ce qu'il a remarqué là-dessus, et je donne juste l'idée, et au final, j'improvise, je parle un peu avec les gens, et c'est vraiment cool de pouvoir juste faire ça.
Ouais.
Et moi, j'ai ce truc de quand ça marche pas du tout, de faire bon, on fait un petit débrief. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé?
Ça,
et là, tout le monde est super gêné de dire quelque chose, ouais. Mais du coup, je suis obligé d'assumer, mais c'est une soirée test, les gars, on est d'accord, c'est de la merde. Hein. Tout était nul. L'idée, la façon de le faire, la personne, en fait, ma tenue. Et du coup, ça, les gens se détendent sur le fait de, on est tous au courant. Ça ne s'est pas bien passé.
Ouais.
Tout le monde est au courant. C'est pas grave. C'est une soirée test. Ça nous permet justement de savoir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Mais c'est vrai que c'est, l'ego prend un coup quand même.
À fond. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là, généralement, on joue tous, enfin, en tout cas, tous les trois sur des plateaux où les gens payent quand même entre 10, 15 euros. Mm-hmm. Et là aussi, clairement, des fois, il y a des organisateurs qui sont en mode ne testez pas ce soir,
oui.
Quoi. C'est logique, mais d'un autre côté, il y a des gens après qui sont là, oui, mais on t'a déjà vu plusieurs fois, c'est plusieurs fois la même chose. T'es là, oh waouh. Je trouve que c'est trop compliqué ce truc-là de savoir.
Quand est-ce que tu peux tester quelque chose de nouveau, quand est-ce que tu peux pas? Bah, faut arriver avec la confiance et espérer que ça marche. Mais des fois, quand tu testes quelque chose qui est plus récent, tu viens avec une autre énergie pour le dire aussi, donc t'as plus envie de le dire. Des fois, ça marche mieux que.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est vrai.
Et moi, ce que j'adore à ma soirée test, je sais pas si vous avez remarqué la même chose, c'est que quand tu fais quelque chose qui est rodé à cette soirée-là,
ça marche pas.
Ça marche pas. Ouais. Ou alors les gens le ressentent et font.
Tu nous as menti. Ils sont trahis.
Comme s'il y
avait
une trahison du thème, quoi.
C'est super vrai.
Mais t'es venu avec un. Ça, c'était. Il y a déjà des gens qui font fait. Ça, c'était rodé. Et fait. Ouais, le début était rodé, mais après, c'était pas rodé. Ok. Mais j'ai bien aimé la deuxième partie.
Ouais, c'est ça.
Waouh.
Ouais, je sais pas si c'est genre une catégorie de public hyper niche qui aime bien voir des gens se casser la gueule, mais en tout cas, il y a vraiment un engouement autour de venir voir du test.
Ouais, il y a des gens chez nous qui viennent toutes les semaines, quoi.
Ouais.
Je crois que c'est des gens qui aiment le stand-up, qui ont été en voir beaucoup. Et en fait, c'est un peu faire partie des coulisses, quoi, de voir le test. Et donc, je pense qu'ils viennent, ils se disent, OK, on va voir d'où ça vient. Genre, il y en a qui sont venus voir le spectacle et ils étaient là en mode, on était là la première fois que t'as fait, tu vois.
Ouais,
et pour eux, ils sont un peu complices de la création.
C'est vraiment ça.
Et en plus, tu peux pas mentir. Genre, s'ils le savent tout de suite, c'est du test, c'est pas du test. Et comme ça, ils s'assurent d'avoir quelque chose de nouveau aussi. Mais c'est juste respecter, en fait, ce que tu dis. C'est une soirée test. On veut du test, donc si tu ne fais pas du test, c'est pas ce qu'on veut. C'est comme si les soirées à thème, au réservoir aussi. Si c'est une soirée sur Friends, tu fais des blagues qui sont incroyables sur un autre sujet, les gens font. C'est bien gentil, mais.
Mais c'est pas pour ça qu'on est venu, quoi.
Moi, je veux des blagues sur Friends, là. Je veux des
tests. C'est ça.
Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je prends la soirée Friends parce qu'on y était avec Hugo, c'était vraiment cool. J'aime trop. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de faire la soirée.
Ouais, moi j'en ai fait beaucoup. J'ai juste Friends, j'ai pas fait. Sinon, j'ai déjà fait Dragon Ball, Pokémon, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait aussi
Harry Potter,
Marvel, ouais. C'est Marvel, je crois.
Marvel, ouais.
C'est trop cool.
Mais tu vois, tous ces trucs-là, t'as peur d'y aller avant et au final, quand tu reviens, t'es
aussi
tellement content parce que on devrait en fait en avoir chaque semaine des thèmes, enfin des soirées à test parce que c'est ce qui t'apporte
ça
le plus.
Ça forge de ouf, même pour l'aisance scénique en fait. Parce que même si ton texte est nul, tu vas développer d'autres capacités, j'ai l'impression.
Pour arriver à le vendre mieux, pour être sûr que ça se passe
de
bien,
ouf.
Donc tu déploies une énergie et un truc de survie.
Ouais, c'est ça.
Cette blague-là, je suis pas sûr qu'elle va passer, il faut que je la vende le mieux possible. Et au final, tu fais
c'est ça.
Trop bien passé. Moi, les soirées à thème, j'ai fait Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars et Friends. À chaque fois, je me dis, je vais pas filmer parce que ça sert à rien, ça va être nul, je veux juste pas me prendre un bide, je vais essayer de le vendre le mieux que je peux. Et la soirée Star Wars, je me suis dit, mais c'est une de mes meilleures scènes.
Ouais, mais en plus, le public est tellement à fond dans le thème que juste tu leur dis Star Wars, ils sont là, waouh,
Luke Skywalker, il a
il a des refs. Ouais, c'est vraiment ça. Je crois vraiment que les gens sont contents parce que comme ils savent de quoi tu vas parler. Ils sont trop. Il y a des gens qui viennent déguisés et tout, hein, c'est dinguerie.
Ouais, Harry Potter.
Harry Potter.
Ouais. C'est vraiment les gens les plus cringe. C'est toi qui faisais des trucs avec les tatouages, non?
Non, je sais pas. Ah si, j'en parlais un petit peu.
Ça, c'est trop marrant.
Mais je défonçais les gens de Serre d'Aigle et Pouf-Souffle. Ouais. Et il y avait deux filles qui étaient déguisées
mais j'étais là.
Serre d'Aigle et Pouf-Souffle.
Ouais, je me souviens. On était à la même soirée là aussi,
c'est ça.
À trois.
Oui, tout à fait. Ouais, c'était...
On se croise quand même pas.
Oui, quand même.
Ouais, ouais, c'est chouette.
Est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose par rapport à vos actualités respectives?
Pas du tout. Toi, tu fais le Festival du Rire de Bastogne.
C'est la seule fois que je reviens de Suisse, c'est pour faire le Festival du Rire de Bastogne en première partie d'Emeric Lompré, donc c'est cool. Mais Emeric Lompré, qu'elle adore.
J'ai trop le seum.
Mais alors que moi, je connaissais pas avant de faire.
Et moi, je pouvais pas participer au concours pour le faire, vu que j'avais fait l'année dernière, où c'était en première partie de PE. Du coup, j'aime beaucoup PE, mais je disais, oh non. On m'a arnaqué, genre.
Moi, je veux Emeric Lompré.
Bah, vraiment.
Et marrant. Donc, c'est marrant, vu que, bah, elle sera là pour m'accompagner. Mais genre, ça, elle est hyper fan de Emeric. Et genre, moi, maintenant, j'aime bien parce qu'elle m'a fait regarder, mais sinon, avant, je connaissais pas du tout. Ah bon, après, je t'expliquerai plus tard que moi, je connais rien en stand-up, donc...
Mais selon mes sources, j'ai appris que tu ne consommais pas beaucoup de stand-up.
Ouais, tout à fait.
J'ai appris ça par Lorenzo Mancini. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi je dis par mes sources.
Il y a une association secrète qui s'occupe des sources de Régis.
Ouais, c'est ça, ils sont 12 à envoyer des messages régulièrement. Attention, tu reçois Hugo, rappelle-lui son enfance, le 17 octobre,
Ils sont à la cave. Non, c'est marrant.
Et bien maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, on va revenir sur tout votre parcours. Donc dans le podcast J'aime remonter le temps, donc pour votre future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir vous êtes né où et quand.
Oh waouh, moi je suis né le 4 février, c'est bientôt, 1999 à Uccle.
À Uccle, ok.
Et ouais les enfants.
Moi je suis né le 24 janvier 2001 à Bastogne.
Eh mais bon anniversaire, j'ai passé.
Merci. C'est vrai que c'était pas longtemps et elle c'est bientôt.
Bah ouais, c'est ça. Bah, ça. Bon anniversaire. Comme ça, j'oublie pas. Toi, j'ai oublié.
Merci.
Désolé. Ouais. J'ai même un petit gênant de ah oui. Tu m'as pas souhaité d'ailleurs. Ok.
C'est ça. Mais Hugo, il s'en fout, je crois.
Ouais, c'est pas grave quoi.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui.
Je dois encore répondre au message.
Ok. Bah, moi, ça me dérange pas si on me le souhaite pas, mais j'aime trop mon anniversaire.
Ah ouais. C'est quand ton anniv, toi?
Le 5 mars.
5 mars, putain, je vais retenir.
Avec ma copine, de temps en temps, je fais « C'est bientôt !» C'est dans 2 mois. Mais c'est trop bien, je vais avoir un cadeau.
Ouais, les cadeaux, ça, j'adore aussi.
Oui,
sans blague. Avec Hugo, on a passé une super journée d'anniversaire pour lui, franchement. On a été faire du trampoline, c'était super.
Ah, trop cool. Ouais. Dans un parc à trampoline.
Ouais, tout à fait.
Cool.
On était les deux seuls, le major.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai fait ça avec ma nièce, j'ai essayé de faire un sketch là-dessus, je me suis défoncé le coude là-bas. Donc,
ça arrive souvent. Hein,
C'est ça, faites attention. Ce podcast n'est destiné que à ça.
C'est de la prévention de trampoline.
Les parcs de trampoline, faites vraiment attention.
C'est dangereux.
C'est fun, mais c'est dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Ça marche. Et j'ai besoin de savoir, est-ce que vous étiez déjà des gens drôles quand vous étiez vraiment enfant?
Oh waouh, c'est dur à dire, mais moi je pense ouais. En fait, j'ai eu un peu cette position de clown familial pour faire la médiation quand t'es enfant, tu vois ou pas?
Ouais.
Moi, ça faisait le lien entre tout le monde. Et en fait, je pense que moi je m'en rendais pas compte directement, mais c'est beaucoup les autres qui me disaient ah fais des blagues. Dès qu'il y avait des amis à mes parents qui étaient là, je devais raconter des blagues et faire des pièces de théâtre et tout.
Okay.
J'étais vraiment le clown de service et j'aimais trop ça. Du coup, en vrai. Je pense que je me suis déjà entraîné très longtemps à faire du stand-up sans le savoir.
Ouais, moi, c'était un peu... je crois qu'à l'école, j'étais pas très marrant. Mais c'était plutôt avec les amis de mes parents, ouais. Genre, je me mettais à table, j'écoutais. Et des fois, j'interrompais la discussion pour faire une blague, quoi. Genre, j'étais, à 5 ans, j'étais le Redouane Bouguer à bas de la table. Je faisais que des interactions. Et au final, ce que j'ai pas fait...
Juste un petit enfant qui fait... Alors, qu'est-ce que vous faites quoi dans la vie? C'est quoi votre relation entre vous?
Et donc, ils discutaient et tout. Ils avaient des discussions hyper matures d'adultes. Et des fois, j'étais là, attends. Et hop, c'est une petite blague sur le... Enfin, petite référence et tout ça, ce qu'ils avaient dit avant.
Des petits callbacks.
Donc, en fait, je crois que c'est surtout parti de là. Mais vu que j'ai très vite eu des amis qui avaient genre 5-6 ans en plus que moi.
Ok.
Et donc, à l'école, je pense pas que... Que c'était.
Ouais, du coup.
C'était pas ton public cible.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Je fais plus rire ma grand-mère que mes potes à l'école.
Et est-ce que votre entourage, c'est des gens drôles, genre vos parents, vos frères et sœurs?
Mon père, c'est vraiment la personne la moins drôle que je connaisse. Mais c'est un enfer, vraiment. Et lui pense qu'il est hyper drôle.
Ah, ouais.
Et Hugo l'a rencontré il y a pas longtemps et il a vraiment tenu à faire sa blague préférée que je peux te raconter hein, si tu veux, elle est vraiment excellente. Donc c'est quoi l'histoire? C'est en France, il y a deux villes qui s'appellent Gou et du coup il y a deux habitants de Gou qui se rencontrent et il y en a un qui demande t'habites à quel Gou?
Voilà.
On n'est pas obligé de rebondir là-dessus. Et c'est très inquiétant parce que mon père veut écrire pour moi.
Ok, ouais, mais je...
Et il m'a jamais vu sur scène.
Je te confirme de ne pas le laisser
voilà,
faire.
Voilà, il m'a dit, mais on fait plus ou moins le même métier et tout ça. Lui est avocat, donc vraiment, ça, je vois
contre,
pas le...
Ça, par contre, c'est drôle.
Je
ça...
vois pas le lien, quoi.
On fait plus ou moins le même métier.
Mais sinon, ma mère, ouais, ma mère, c'est quelqu'un de très marrant, malgré elle, hein, parce que juste, elle fait beaucoup de fautes de français, où elle fait des... Elle confond des mots, elle a des attitudes hyper... trop comme ça, dans l'intensité. Des fois, elle va dire qu'elle a passé une mauvaise journée, mais elle va vraiment comme si elle avait eu la fin du monde devant elle, quoi.
C'est... Mais parce qu'elle parle allemand de départ aussi.
Oui, oui, mais elle a pas d'accent, mais juste elle va confondre des mots, tu vois. Pour te dire qu'elle a profité d'une journée, elle va dire qu'elle a susurré chaque moment.
Ouais, c'est ça.
C'est hyper marrant, mais ça donne des situations hyper absurdes, quoi.
Mais les blagues que tu fais sur ta maman dans le sketch me tuent à chaque fois. C'est très, très drôle. Allez voir en spectacle, Ilona. Et toi, ton entourage, frère et soeur?
Ouais, pas tellement non plus. Bah, je crois que ma mère, c'est un peu la même situation que la sienne. C'est plutôt marrante, malgré elle, genre, des fois un peu maladroite, ou, enfin, tu vois. Et mon père est marrant, mais si tu le connais, quoi. C'est quelqu'un de très rustre et froid, okay. Hein, de base.
Le père de la campagne, quoi.
Ouais, très, il intimide beaucoup de gens, okay. Mais il a beaucoup de potes et tout, et quand c'est en... Quand on fait des soirées avec les amis et tout ça, c'est quand même lui qui va lâcher des petites blagues, etc. Donc c'est peut-être de lui que ça tient ce truc de j'interviens dans une discussion pour faire une vanne, quoi.
Mais il a quand même aussi un peu, il est drôle malgré lui. Genre il avait une Subaru avec des jantes dorées là.
Ah ouais, ouais, bien sûr.
Mais... C'est pas Miguel, quoi, c'est marrant.
Et mais il est pince sans rire en fait.
Ouais, mais comme toi un peu.
Il fait des blagues et tu sais jamais si c'est une blague. Enfin, si tu le connais pas, tu sais pas si c'est une blague ou pas, quoi. Tu
vois. Ok, ouais. Et est-ce que vous alliez voir beaucoup de spectacles, beaucoup de comédies, ou vous regardiez beaucoup de comédies à la télévision, beaucoup d'humoristes, ou pas du tout ?
Moi, j'ai grandi en regardant Charlie et Dino à la télé, donc vraiment des bonnes références.
Ça se ressent beaucoup dans
ton... Ouais, vraiment. et sinon, non, moi, je regardais beaucoup, beaucoup Montreux, mais pendant très longtemps, avant de commencer à faire du stand-up. Et puis, le premier spectacle que j'ai vu en vrai, c'est celui de Nikos au Kings.
Ah ouais,
du coup, vraiment pas du tout de culture stand-up frontale, quoi.
Wow.
Et c'est de là que je me suis dit, je veux en faire.
C'est en voyant Nikos que tu t'es dit, je vais faire du stand-up.
Mm-hmm.
Trop marrant.
Ouais, de ouf.
Mais de ouf. Et donc, c'était en quelle année, du coup, c'était il y a...
2022, février 2022.
Attends, tu as découvert le stand-up en février 2022.
Ouais, mais je regardais Montreux avant, donc je connaissais méga bien, genre Fanny, je connaissais de ouf.
Non, mais le premier spectacle que tu vois en live, c'est Nikos.
Ouais, avec Julien en première partie.
Trop fort.
Ouais.
C'est trop marrant. Du coup, ils t'ont donné envie de faire du stand-up ce jour-là, quoi.
Mm-hmm.
Plus que le fait de le voir en Montreux, c'est le fait de le voir en vrai qui t'a fait...
Je pense en fait que c'est parce qu'il y avait beaucoup de similitudes dans ce qu'il racontait et ce que je ressentais de ma life. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est trop ça que je veux faire. Et puis, c'était aussi une période où je ratais de ouf l'UNIF, donc j'avais plus d'autre choix, quoi, de faire un truc.
C'est de la survie.
Ouais, vraiment, c'est de la survie. Je te dis, sinon, je vais mourir, en fait.
Ok. Et toi, Hugo ?
Moi, zéro, tu vois. Genre, j'étais vraiment le public... de surface, quoi. Genre, j'ai découvert Paul Mirabel en même temps que tout le monde, tu vois. J'étais là, ouais, il est trop fort, parce que j'ai vu sa vidéo Montreux. Genre, le premier spectacle que j'ai été voir, c'était Freddy Togo, parce que je regardais Le Grand Cactus, tu vois.
Okay.
C'était vraiment
très
en surface, quoi. Tout ce qui était médiatisé, je le connaissais et je consommais, mais sinon, j'ai jamais été chercher plus loin que...
Okay.
Et là, depuis que j'ai commencé, à part en plateau, faire des belles découvertes, comme Reda Sawi, que t'as déjà eu, tu vois, que je trouvais trop fort, et j'étais là en mode, ouais, ok, en fait, les gens médiatisés sont pas forcément les plus forts, tu vois, mais j'en consomme toujours pas sur Internet ou quoi, très peu, quoi.
Même le fait de maintenant en faire, t'aimes ça parce que tu en fais, ça te donne pas envie d'en consommer,
genre, je ne saurais pas regarder un spectacle à la télé, à part Guillermo Guiz, mais c'est parce que là, il y a vraiment une situation bizarre avec, genre, c'est du fanatisme, quoi, tu vois, je pourrais regarder cette fois son spectacle, mais...
Ok, donc t'es vraiment fan de Guillermo.
Ouais, c'est le spectacle qui m'a donné envie de faire du stand-up avec Sacha en première partie.
Ok, c'est trop marrant, donc t'as pas du tout envie de regarder du stand-up, tu vas pas aller voir des spectacles?
Non, jamais.
Ah ouais.
J'ai jamais été de faire voir un spectacle.
Alors que toi, tu fais. Enfin, toi, c'est vraiment.
Moi, je vais en voir deux. Je vais en voir deux cette semaine-ci.
Ah ouais,
waouh. Tu vas voir quoi ?
Je vais voir Simon Lepers.
Ah ouais. T'as jamais vu ?
J'ai pas vu le spectacle complet. Ouais. J'ai vu beaucoup de passages.
Ouais, l'entrée. Avec
mais on en a parlé dans le podcast. Il explique son spectacle et j'aime trop le personnage.
Ah ouais.
Simon, c'est quelqu'un qui fait mourir de rire.
C'est vraiment un enfant hyperactif, je trouve.
Ouais.
Et du coup, j'ai trop hâte de voir. Et vendredi, je vais voir le spectacle de Rosa Bernstein.
Ah ouais, elle vient.
À Lille. Et donc je vais voir ça, mais je vais en voir plein, je vais en voir souvent, mais je regarde tout le temps. Enfin, moi j'ai...
Ah ouais.
C'est le truc que je consomme le plus. Toi, tu écoutes des podcasts
de crime.
Moi, j'écoute que des podcasts
d'humour. Il y a quand même un truc beaucoup plus sain que l'autre, quoi.
Je sais pas parce que j'en consomme tellement que c'est devenu pas très simple.
Ah ouais, ouais, c'est ça.
C'est par exemple quand j'étais à Montréal, donc je pense que de janvier à juin, j'ai pas écouté de musique, quoi. Parce que chaque fois que j'avais des écouteurs ou que je pouvais écouter de la musique, j'écoutais un podcast. Je préférais écouter des humoristes.
Ouais,
ou alors j'écoutais le Gong Show, qui est une émission
très marrant.
Au
que
Québec.
Que Nico Mazzoni a fait, non?
Ouais.
Bah, je l'ai fait.
Toi, tu l'as fait aussi.
Tu l'as fait, putain, j'avais pas vu.
Et
ça a l'air horrible, ce truc.
C'est trop cool.
Ah ouais?
C'est trop génial. Bah, c'est dur parce que.
On te buzz, quoi.
Mais du coup, j'explique un peu pour les gens, me serait. C'est donc, t'as trois membres du jury. Donc, deux humoristes qui sont toujours là, qui sont Charles Deschamps et Anthony Rémillard, deux humoristes super cool, et ils invitent à chaque fois un troisième humoriste. Et donc il y a des humoristes qui font un passage comme dans un open mic de 3 minutes, et si tu réussis les 3 minutes sans te faire gonger, t'as réussi. Mais en fait, ils te gongent s'ils trouvent que c'est pas drôle, que c'est pas original, que c'est cliché, que c'est insultant.
C'est dur quand même.
Mais en vrai, le public, on les chauffe à mort pour dire vous êtes en soutien de l'humoriste, peu importe, riez, soyez bienveillants et tout. Donc le public est super chaud. Donc en fait, tu arrives. Et c'est comme arriver sur un plateau classique, sauf que le public est ultra chaud.
Ouais, génial, en fait.
Ils sont trop motivés. Donc, en fait, lui a un passage super cool, filmé.
Et c'est filmé, la capta est belle, non?
La capta est super bien faite. Ce qui est dur, c'est que t'as un jury qui est à ta droite. Mais en vrai, une fois que tu commences, t'as un stress supplémentaire parce que tu joues et tu te dis, ah, je vais être jugé, j'espère ne pas me faire gonger. Mais une fois que t'es sur la scène, c'est une scène classique, dans un bel endroit, parce que tu joues au Bordel Comedy Club, qui est le meilleur endroit au monde pour jouer. Ouais. Tu joues devant un public qui est toujours rempli, la salle est toujours remplie à ras-bord. Les gens sont trop motivés parce qu'ils ont réservé leur place en avance, machin. Et ils sont les abonnés Patreon du Gong Show. Donc en fait, c'est trop chouette. Donc, en fait, c'est, si tu te fais gonger, c'est que tu te tapes un bide dans la vraie vie, quoi.
Ok, ouais. Okay. Mais là, tu l'as quand même pas, le bide.
C'est ça. Là, t'as pas le bide. Et en fait, quand c'est un passage qui se passe bien, c'est abusé comment ça se passe bien. Moi, les deux passages au Gong Show sont trop bien passés. Surtout le deuxième. Mais le deuxième, c'était abusé. Genre, j'étais là.
Attends, tu dois sortir de là en mode, t'es un cheveu le roi.
Ouais, bon. Mais en fait, moi, j'avais prévu en 3 minutes de ce que j'ai fait. J'ai fait 1 minute de moins parce que j'avais des rires à chaque fois.
Ah ouais.
Et du coup, ça fait plaisir.
Ça
hein.
se passe trop bien et c'est trop cool. Donc, une fois que t'es dessus, mais après, il y a des gens qui font le Gong Show, c'est leur première scène de leur vie.
Oh, ouais, ça, c'est très audacieux, non?
Ça, je les comprends pas. Ah ouais, moi, j'ai un peu d'expérience pour le faire. Je faisais déjà plein de soirées et tout. Mm-hmm. J'allais là et j'étais stressé à fond.
Ouais.
Eux, il y en a, ils font sur leur première scène. Ils ont écrit un truc l'après-midi. Ils font, allez, je vais y aller. Il y a des gens qui sont inconscients aussi, tu vois.
Mm-hmm, ouais, bien sûr.
Mais du coup, il y a tout. Et il y a vraiment des propositions complètement folles. Il y a des gens qui viennent avec des concepts dingues. Il y en a un qui
vient. Faudrait que je regarde.
C'est vraiment trop chouette. Moi, je regarde ça tout le temps. J'écoute ça tout le temps.
C'est sur YouTube ou c'est sur
YouTube.
Quoi ouais,
mais il se passe rien si tu réussis.
Si tu réussis, en fait, une fois que tu réussis plusieurs fois, tu reçois une pin pour dire que t'as passé plusieurs fois. Et si tu le fais, réussis 10 fois d'affilée, tu es membre du jury.
Ah ouais, c'est pas vrai. D'affilée.
Ouais, pas dix fois d'affilée, faut réussir 10 fois en tout.
Okay.
Mais il y en a pas beaucoup qui ont fait 10 passages réussis parce qu'il faut.
Mais Reda, il est dans le jury. Des
Reda,
fois.
Il a déjà été invité. Il a déjà fait une fois le jury, mais
parce
que lui, il est
déjà.
Imagine,
c'est Reda qui te juge.
Ouais.
C'est trop dans le mal.
Mais en vrai, c'est trop chouette d'avoir Reda qui te juge.
Ouais,
c'est
trop cool.
Reda est super sympa.
Imagine, il fait des retours. Moi, j'adore ce mec.
Mais en vrai, ce qui est chouette aussi, c'est le côté retour. T'as des retours de 3 professionnels qui te regardent. Et ils sont super chouettes. En vrai, ils font aussi en fonction du public.
Ouais, c'est
donc
ça.
Par exemple, si eux trouvent que c'est pas incroyable, mais tout le public est éclaté de rire et ça se passe trop bien, ils vont pas te gonger, même s'ils trouvent que c'est
horrible.
Même s'ils trouvent que c'est mauvais, en soi, bah tout le monde rit. Tu peux pas dire que c'est pas
ça.
Bon. Il y a des humoristes que moi j'aime pas du tout, mais si je vois tout le monde qui rit autour, je fais bah il est bon.
Ouais.
C'est pas le moment de faire un name dropping non plus.
Je suis là, oh mon dieu, il y a tellement de noms qui me viennent en tête.
Il y a pas de
super méchante comme.
Il y a pas de golden ticket, genre.
Non, il y a pas de truc, mais ils ont fait une émission, ils ont fait aussi des shows un peu spéciaux avec ceux qui ont réussi.
Ok, ouais, d'accord.
Beaucoup à
des
ça.
Best of, quoi.
Ils les mettent en avant et en fait toutes les soirées d'humour regardent cette émission. Et il y a plein de gens qui t'en parlent. Moi, je travaillais dans une boulangerie à Montréal. Il y a des gens qui venaient me chercher du pain, qui me font, hey, je vous ai vu au Gong Show.
Ah ouais, tu vois, ouais. Ouais, ça a des vues.
Ça fera 2,99, s'il vous plaît. Mais du coup, c'est trop marrant. Mais c'est vraiment une émission qui commence à être pas mal regardée et c'est trop chouette.
Ah ouais, ça.
Mais donc, assez cool à faire. Je sais pas comment on est arrivé à parler du Gong Show.
Bonne question.
C'est une très bonne question. C'est pas grave.
On parlait de nos parcours, de où on est né.
Si, moi je sais pourquoi.
Ouais, vas-y.
On parlait des podcasts et tout.
Est-ce qu'on consomme?
Ouais.
Et que toi t'en consommes de ouf.
Oui, c'est ça. Je consomme beaucoup d'humour. Et ouais. Donc, moi je regarde le Gong Show, voilà. Je regarde les humoristes. Je regarde que ça, moi. Si. Pour ma Noël, on m'a offert que des spectacles.
Ah, waouh.
Hyper simple comme personne.
C'est trop simple de m'offrir des cadeaux.
Ouais, c'est trop bien.
J'avoue.
D'ailleurs, si vous voulez m'offrir des cadeaux, n'hésitez pas.
Le 5 mars, je répète. Le 5 mars.
On revient voir notre spectacle.
Mais avec plaisir. En vrai.
Mais toi, tu le fais plus à Bruxelles avant avril.
Ouais, en mai. le 8 mai. Ouais.
Bah, ça marche. Oh, c'est l'anniversaire de mon petit frère.
Ah bah voilà, tu viendras avec ton petit frère. Je mets deux invites pour ton petit frère.
Mais franchement, je veux bien. Moi, j'aime bien aller voir les spectacles des copains et tout. Ça m'éclate d'aller voir des spectacles.
Moi, ça me stresse quand des gens qui me connaissent viennent parce que je suis là, oh mon dieu, ils ont déjà peut-être entendu au moins 40% de ce qui se passe sur scène.
Ouais, mais après, moi, je suis trop bon public.
C'est vrai. Ça fait trop plaisir de t'avoir
dans le
film. Il y a pas longtemps, il y avait quelqu'un qui avait le même rire que toi. Et c'était une femme. Et vraiment, c'était ce rire-là. Elle l'avait. Et j'étais en train de péter un câble. J'étais à Liège. Mais où est Régis dans cette salle? Ça n'a aucun sens.
Ah, trop marrant.
C'était génial.
Mais j'ai vu que vous étiez, du coup, quand vous étiez jeune, plutôt sport. Ilona, tu as fait beaucoup d'équitation. Ouais. Hugo, toi, tu avais le mini-foot. Est-ce que vous avez fait du théâtre et de l'improvisation? Enfin, Ilona, je sais que toi, tu as fait du théâtre parce que tu étais une des stars de la pièce Il était une autre fois à l'Athénée Royal Duc.
Oh, waouh, le stalking, let's go. Ouais, moi, poney vibe de ouf. Et théâtre, ouais, j'en ai fait que pour les pièces à l'école et tout, okay. Mais j'ai jamais pris de cours de théâtre. J'ai commencé l'académie en impro, j'ai été une fois, je crois. Puis j'ai arrêté,
okay.
Parce que j'adore arrêter des trucs, sauf fumer malheureusement. Et non, voilà, du coup, pas de théâtre.
Pas spécialement attiré plus par ça, la scène, à ce moment-là, en tout cas.
Si, je pense, bah si, en fait, je dis n'importe quoi, parce que j'ai essayé de passer les examens d'entrée à l'ANSAS et l'IAD, qui sont des écoles de théâtre, okay. J'ai oublié, mais j'ai raté aussi, parce que je voulais vraiment faire un truc artistique comme ça, et je suis trop heureuse d'avoir raté, parce que ça m'aurait pas du tout convenu d'être dans un cadre plus théâtral, quoi.
Et à quel niveau
Bah, je pense que j'aurais aimé jouer, mais pas plus que le stand-up.
Et toi Hugo?
Donc moi, c'était le foot mais à fond depuis mes 5 ans. Je joue encore au foot, hein, mais il y a une bonne partie où c'était objectif Mbappé, tu vois. Projet Mbappé en mode, je voulais vraiment percer dans le foot, etc. Donc ouais, j'ai joué vers mes 12-13 ans en national, donc... Là, c'était 3 entraînements semaine à 1 heure de chez moi, etc. Plus le match le week-end, donc j'allais 4 fois au foot par semaine. Donc là, c'était beaucoup. Et donc, c'était vraiment un milieu auquel je suis pas destiné, le stand-up. Tu vois, genre, moi, je faisais partie des footeux avec un dégradé, une petite crête. et les mecs qui faisaient la pièce de théâtre, c'était vraiment les losers, tu vois. Pour nous, on était là en mode, on allait voir la pièce des élèves, on était là. Oh non, la honte et tout. Enfin, tu vois, genre, les petites frappes de l'école...
Calme-toi, ça m'est encore hyper présent.
Ouais, mais à non. Bastogne.
Ouais, les petites frappes à Bastogne. Ouais. Bah, aujourd'hui, c'est plus, ouais, je pourrais en parler en mode autodérision du fait d'avoir été un peu dans ce truc, les petits mecs qui arrivaient à l'école, genre, ouais, ce week-end, on a joué au foot. Enfin, tu vois, un peu les mecs qui se croient stylés alors que, bon, ils ont une crête avec du gel dégueulasse, tu vois. Et ouais, donc, pas du tout ce milieu-là. J'avais jamais rien fait avant de scène ou okay. C'est vraiment venu en mode je vais voir Guiz, j'adore ce qu'il fait,
okay.
C'est parti.
Après niveau études, bah donc toi Hugo, t'es dans une étude de journalisme,
ouais.
Là t'as terminé,
ouais, là je viens de défendre mon mémoire.
Comment
donc c'est bon
passé?
Très bien, réussi, c'est bon,
je te félicite.
Merci. Et donc après stage en Suisse, okay. Et puis après tout ça c'est fini, quoi. Et donc bah on va essayer de ne jamais travailler dans le journalisme.
Ok, donc l'objectif, c'est de vraiment faire humoriste.
En vrai, j'ai commencé, et on se le dit souvent, faut qu'on se rappelle pourquoi on a commencé, tu vois. En mode, des potes nous ont dit, vas-y, fais-le, et on l'a fait, et c'était pour s'amuser. Mm-hmm. Donc, je ne m'avais pas vraiment d'ambition. Genre, comme on a dit, si ça s'arrête demain, on sera déjà très content. Tu vois, des fois, tu fais des salles, il y a 500 personnes, t'es là en mode, c'est trop bizarre, tu vois. Genre, tu pourras quand même dire qu'un jour, il y a 500 personnes qui sont venues te voir, alors que finalement, tu seras peut-être un bête journaliste sur TVLux, tu vois.
On embrasse les journalistes de TV.
Ouais, vraiment. Nos amitiés.
Et non, au final, moi je me dis, ouais, pas d'ambition, mais il y a quand même l'envie de le faire, quoi. S'il faut choisir, maintenant tu me dis, tu préfères être journaliste ou faire carrière dans le stand-up, bah, je fais carrière dans le stand-up, mais c'est pas nous qui choisissons si on fait carrière ou pas, tu vois.
Ok, ça marche. Mais toi, Ilo, tu l'as dit, t'as essayé...
beaucoup de choses.
T'as essayé beaucoup de choses.
Ça, c'est aussi un des trucs qui nous différencie de ouf, c'est que Hugo, il a jamais rien raté comme examen de sa vie, je crois. Et moi, c'est vraiment l'immense contraire, quoi.
Ok.
Tout raté. J'ai fait droit, bio, biomède, communication, 2 mois à l'ULB. Puis après, j'ai fait aussi littérature une après-midi. Enfin, vraiment, j'ai tout essayé. C'était monstrueux. Puis j'ai fait les examens d'entrée théâtre à l'ANSAS et l'IAD. Et puis, j'ai fait une formation en radio que j'ai arrêtée aussi.
Ouais.
Académie un peu aux Beaux-Arts et tout. J'avais pris quelques cours. J'ai arrêté aussi. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses et il y a rien qui me... En fait, je pense que je suis intéressé par beaucoup de choses, mais passionné par aucune. Et là, le stand-up, c'est la première fois que pendant aussi longtemps, j'ai une fibre pour quelque chose comme ça.
Et toi, c'est dans l'idée de faire ça?
Bah, si je fais pas ça, je sais pas ce que je vais faire. Hein.
Ok, ça marche.
Vraiment très inquiétant, quoi.
Je te le souhaite.
J'espère aussi, mais après, à nouveau, genre sans ambition, enfin, si ça se passe, ça me plaira. Et si ça se passe pas, bah, je vais trouver autre chose. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autre chose ou d'autres plans, quoi.
Mais en soi, ce qui est marrant, c'est que tu dis, j'ai tout raté, j'ai essayé plein de choses et j'ai pas trouvé. Mais au final, on est trois personnes. Moi, j'ai fait directement mes études, j'ai tout réussi aussi. Pareil, j'essaie de faire humoriste et de pas travailler dans ce que j'ai fait comme études, tu vois.
Oui, à fond. Et c'est
se retrouve au même point.
À fond. Mais c'est pour ça que...
on a fait une ligne directe et...
Et moi, j'ai pris des détours, quoi. Des centaines de détours. En vrai, c'était hyper intéressant. Hein. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire dans mon spectacle, c'est que l'échec en est pas un, parce que si j'avais pas raté, ben, je serais peut-être devenue biologiste, avocate ou plein de trucs qui me ressemblent tellement pas et j'aurais jamais découvert...
Mais t'aurais pas de texte, surtout. Si t'avais pas raté.
C'est vrai, j'aurais tellement pas de texte.
C'est vrai, t'as quand même pas mal super. De blagues sur les études que tu as arrêtées.
Ben, j'ai rien d'autre.
Bon, non, t'as quand même d'autres blagues.
C'est vrai, t'as raison, j'aurais un peu...
Heureusement, t'as aussi une mère allemande et apparemment un sketch sur les One Direction.
Ouais, c'est vrai.
J'ai bugué sur Direction.
Mais c'est vrai que ça parle de ça, donc en soi, si t'avais pas raté, t'aurais pas...
Bah, j'aurais pas pu faire du stand-up non plus, quoi.
Ouais, c'est ça.
T'aurais pas envie, en fait.
Au final, c'est une réussite d'avoir raté.
C'est beau, putain.
C'est beau.
Ouais, on va arrêter là.
Ça sera, la préface du livre. Au final, c'est une réussite d'avoir raté. Et après...
Ouais, j'essaie de conclure mon spectacle là-dessus, comme ça, vous êtes spoilés.
Ouais, ça peut être une belle phrase. Une belle phrase de fin. Mais donc, vous l'avez dit, vous avez tous les deux commencé à faire du stand-up après avoir vu quelqu'un sur scène qui fait du stand-up. Toi, ça a été Nikos, toi, ça a été Guillermo Guise.
Même niveau, hein.
Même niveau. Coucou Nikos. Comment ça s'est passé? Vous avez vu le spectacle? Vous vous êtes dit, je vais faire du stand-up. Comment vous êtes mis à faire du stand-up? Comment ça a été votre première scène?
Moi, c'était un piège. Hein.
Okay.
C'était un piège, c'est mes copines. Du coup, à l'UNIF, je leur faisais beaucoup plus de blagues que étudier au pause, blocus. Vraiment, je faisais n'importe quoi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, en faisant des blagues, je leur faisais retenir la matière que je connaissais aussi. Enfin bref.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Faisais des petits subterfuges et du coup j'ai raté de ouf et après elles m'ont toujours dit d'en faire mais j'osais pas, tu vois, il y a un peu comme ce truc qui me manquait qu'on me pousse vers le dans le stand-up et du coup pour mon anniversaire elles m'ont offert d'aller voir un spectacle dans l'idée que ça me plaise assez pour que j'en parle à cause après. Okay. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok, ta toute première scène c'est quoi, c'est où?
C'est open mic le 20 mars 2022 au Kings, un dimanche du coup.
Ok, et de quoi t'as parlé? Comment ça s'est passé?
Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'ai encore maintenant. Genre, je faisais la pièce de théâtre déjà, ma première scène. Je sais pas si tu vois quand je fais la pièce de théâtre d'enfant.
Oui, oui.
Je faisais ça et je me présentais, je parlais déjà un peu de ma voix. Et
de Monique.
Ouais, ça, elle était pas encore là, mais ouais. Et je me souviens que je crois que le timing c'était 8 minutes, je crois. J'ai fait 20 minutes, je pense.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Donc, et Bilal osait pas m'arrêter, je crois. C'est trop marrant.
Mais je te confirme, si Bilal, tu entends, Bilal t'a désesté ce jour-là.
Ouais.
Parce que Bilal, elle veut vraiment qu'on respecte. Ouais, je crois que c'est le seul truc qu'il nous demande, en fait.
Donc. Ouais, vraiment. Mais j'avais aucune idée. C'était un stress monstrueux. Okay, je pense qu'il y a 10 minutes où je cherchais mes notes dans mon téléphone, quoi.
Ok, mais ça s'est bien passé.
Oui. Là, oui, pour le coup, d'office, parce que j'étais sur scène, j'étais mais c'est trop bien, en fait. Ouais. J'avais bu énormément de bière avant, surtout.
Ok. Mais ça n'arrive jamais que ça se passe mal et quelqu'un fasse 10 minutes de plus que ce qu'on lui avait demandé de faire quand ça se passe mal. Généralement, c'est beaucoup plus court.
Ça arrive, hein. Bah ouais, ceux qui disent qu'ils ont passé une bonne soirée, tu vois.
Oui, mais c'est qu'ils s'en rendent pas compte.
Ouais,
que...
donc eux, ils passent un bon moment.
Et toi, t'as vu donc Guillermo Guise. C'était quel spectacle, tu te rappelles?
C'est son deuxième spectacle au Wex de Marche en Famène. Mm-hmm. Ça fait plus ou moins 2 ans maintenant que j'avais été voir.
Donc c'était déjà au suivant ou c'est celui-là?
Oui, c'est ça. Au suivant que j'ai été voir. Je t'avoue que je pense que je connaissais même pas spécialement. En fait, j'étais à Liège avec Sacha. Et donc, on avait un ami en commun. On a commencé à être potes. J'ai été le voir une fois. À l'IEX, d'ailleurs, où en fait j'avais vu un plateau de dingue, mais je m'en rendais pas compte vu que je connaissais rien en stand-up. Alors, en gros, c'était un code comedy tour de Nikos et Juan. Et donc, Sacha jouait, mais il y avait genre Sacha, Dena, Ino JP, Louis Chappet, Fanny Ruet et Florent Lawson.
Un plateau de ouf,
ah, ouais.
Un bon plateau.
Et alors, moi j'étais là en mode. Alors, moi je m'en rendais pas compte, mais bon. En vrai, c'était trop bien. Et puis, il m'a dit je viens tout près de Bastogne, en gros, faire la première partie de Guise, tu vas voir, il est trop bien et tout. Ah, donc, j'ai pris des places, j'ai été voir Sacha en première partie. Et genre, le spectacle, j'ai adoré, quoi. Tu vois, j'étais là en mode j'arrêtais pas de rigoler. Ah, et puis après, j'ai été manger avec Sacha et Guillermo.
Stylé de ouf.
Et donc, c'est là où, genre, j'ai vu que Guillermo, c'était un mec qui était très. Il y avait des similitudes dans le sens où là on va parler, je vais te faire très peu de blagues et lui c'est quelqu'un qui est aussi très stressé par ce qui se passe dans le monde et il a pas envie de faire des blagues,
tu vois. C'est posé, timide,
c'est ça, un peu timide et tout, et donc je me suis dit en fait
qui a, si je me trompe pas, fait aussi des études de journalisme.
Ouais, et il était aussi footballeur, il a joué à Anderlecht. Je me suis dit ouais. C'est marrant parce qu'il vient de me faire rire pendant 1h30 et il n'y a pas besoin en fait d'être drôle en dehors de la scène pour être marrant sur scène, tu vois. Moi, je connaissais Sacha qui est très marrant déjà dans la vie de tous les jours. Et donc là, je me suis dit, bah ok, Sacha m'a inscrit à un open mic, la même chose un dimanche au Kings.
J'étais là d'ailleurs.
Ouais, t'étais là. Et
les regards se sont croisés. Et...
Ouais, c'est ça.
Pas du tout.
Non, je me souviens, Hugo, à sa première scène, il n'y avait même pas de micro.
Ouais, voilà. Le micro ne fonctionnait pas.
Ok. Au Kings,
ce qui est très rare. Ouais.
Voilà, c'est.
C'est arrivé 2 fois, je crois, depuis.
Ouais, c'est ça. Mais au final, c'était très cool. Là, j'étais vraiment parti avec Sacha en mode, ok, j'en fais une. Mm-hmm. Et pas spécialement envie de faire plus après. Mais c'était super cool. Il y avait Mélanie Mouvet du Comedy Spot, je sais pas si tu vois.
Ouais.
Ça s'appelle Drôle de Move maintenant. Et directement, elle m'a dit, vas-y, contacte-moi. Je te donne ma carte et tout. J'étais là, oh ouais, ok. Donc, j'étais là parce que quand les gens rigolaient, j'étais en mode, est-ce que c'est normal ou pas? Puis là, je me suis dit, ah, ok, c'est quand même qu'il y avait un truc un peu spécial et donc, okay. Continuer.
Tu te rappelles de quoi tu parlais pour ta première scène?
Ouais, là, pour le coup, ça a tout changé, quoi. Contrairement à Ilona, il n'y a plus une ligne. mais ça parlait déjà de Bastogne, mais pas du tout de la même manière. Je parlais de festivités de la guerre à Bastogne, etc. Ilona, on parle un peu maintenant. Mais moi, je parlais de ça au tout début. Je parlais des 12 coups de midi.
Okay.
Il y a beaucoup, beaucoup d'humour noir.
Okay.
Mais il n'y a plus une ligne, quoi.
Et après, je sais qu'il y a le concours. Ouais. Il y a le Next Prince, qui, je pense, a été vachement important pour toi. Ilona, je sais pas.
Moi, j'ai été têche très, très vite. Hein.
Ok.
C'était ce qu'on expliquait quand on disait qu'il y en avait un qui passait et l'autre pas.
Ah,
après, il y a déjà eu dans l'autre situation où elle fait des choses et moi pas, mais c'est vrai que.
Le Next Prince, c'était hyper dur parce que l'ambiance du concours est atroce. Hein. Ce concours, c'est vraiment hyper rude, quoi.
C'est compliqué. Je l'ai fait cette année-ci et j'ai trouvé ça très dur.
Ouais, l'ambiance et puis tout le monde est là et...
Bah, t'es tiré au sort pour savoir qui passe d'après. Il y a tout un stress en plus qui est ajouté au fait de faire une scène classique.
À fond.
Et c'est très stressant. Mais donc, ce concours-là, c'est le premier concours que tu fais.
Ouais, c'est ma Parce que moi, j'ai fait 2 open mic en mai 2022 et j'ai pas du tout joué de l'été. Et puis, j'ai lancé mon plateau à Bastogne où là, il en est venu.
Okay.
Et puis, on a peut-être dû faire... là, à ce moment-là, je jouais maximum une fois par semaine. Donc, à mon avis, c'était peut-être ma 10e scène, la première du Next Prince.
Okay. Ah ouais, peut-être.
Ouais. Et c'est vraiment une semaine avant, on est à Lille avec Ilona et... je me dis, ouais, en fait, quand je suis sur scène, je m'amuse pas tellement parce que c'est pas naturel pour moi d'être comme ça sur scène, etc. Et donc, on joue une fois au bazar à Lille et je lui dis, bah, ok, aujourd'hui, je vais tester un personnage un peu nonchalant, etc. Et donc, c'est la toute première fois que je le fais.
Ah, waouh, je me souviens pas du tout.
C'est la toute première fois que je le fais. Ça marche bien, donc je dis, ok, je joue le tout pour le tout au Next Prince, je fais le personnage à la première scène. Et donc, en vrai, ça...
Toi, je crois que ça a vraiment été la surprise parce que personne t'avait jamais vu.
Ouais, c'est ça, personne n'avait jamais vu. J'avais fait 2 open mic à Bruxelles, donc personne ne pouvait me connaître.
Et le fait que tu sois passé déjà après les éliminatoires, tout le monde était un peu là en mode, what the fuck, c'est qui ce type?
Et puis,
t'as été jusqu'en finale.
En finale, ouais. C'était marrant, vu que c'était à chaque fois qu'on des gens, tu vois, qui... Enfin, Bénin qui faisait ça depuis 7-8 ans, Romain Scura qui faisait ça depuis des années. Et donc, moi, je me disais à chaque fois, j'ai aucune chance, tu vois. Et je crois que la chance que j'ai eue, c'est que là où ils allaient rechercher de l'ancien texte pour les tours d'après, c'est que moi, j'étais obligé d'écrire. Et donc, comme tu disais, tu vois, c'est plus frais, t'as envie de le dire. Et je crois qu'en fait, j'ai à chaque fois eu c'est comme si j'allais à une soirée test 6 semaines d'affilée et que 6 semaines d'affilée, ça se passait bien, mais ce qui n'arriverait jamais, tu vois.
Mais surtout, t'as de la chance parce qu'il y a beaucoup de moments, les autres ont fait vraiment des textes.
Aussi, ouais.
Moins bien, quoi.
Ouais.
Ok, ok.
Il y a eu beaucoup de moments où, genre, Romain avait fait le meilleur passage.
Oui.
De Calif.
De ouf.
Et pas, il a voulu aller chercher un truc pour la 8e et c'est pas passé, tu vois.
Ok, ouais.
Genre, je crois que il y avait quand même beaucoup de circonstances qui faisaient que.
Oui, après, ça dépend aussi sur qui tu tombes, ce jour-là, le passage. Par exemple, moi, j'ai fait pour la première fois le Next Sprint cette année-ci. Parce que toutes les années d'avant, je travaillais le soir, je pouvais pas le faire. Mais j'ai fait mon numéro, qui est mon numéro le plus rodé. En mode, ça va cartonner, c'est le numéro qui passe toujours. Je me dis, les sélections, ça va passer. Et ce jour-là, ça passe pas beaucoup. Et je fais, putain, mais c'est mon sketch qui marche le mieux habituellement. Mais ce jour-là, ça passe pas. Je suis même pas pris pour le premier tour. Au final, je suis repêché parce que quelqu'un s'est pas venu.
Ouais, juste.
Et le deuxième passage se passe trop bien. Mais je suis contre Mélanie qui a gagné le concours. Et
Coup, c'est pas trop déprimant.
Voilà, c'est ce que je lui ai dit, merci d'avoir gagné le concours. Ouais. Comme ça, je peux dire, j'ai été éliminé, mais c'est elle qui a gagné le championnat. Mais ils nous ont dit, vous étiez vraiment trop fort, mais vous étiez tombé l'un contre l'autre, donc il fallait choisir un des deux. On s'est dit, on va prendre Mélanie, ce qui était trop cool. Il y a 5 membres du jury, c'était 3 votes contre 2. On était c'est cool, tu vois. Mais le premier passage passe pas du tout.
C'est trop bizarre.
Alors que c'est un numéro beaucoup plus rodé que celui que j'ai fait le deuxième, tu vois. Donc les concours aussi.
Mais déjà, les
le stand-up en général.
Oui, c'est ça, le stand-up en général. Genre quand tu vas à une scène, moi par exemple, là j'ai un plateau ce soir, j'ai méga peur alors que ça se trouve, ça va bien se passer, tu peux pas savoir à l'avance, tu vois.
Okay.
Et du coup, d'autant plus quand t'as un concours, c'est que tu dois être fort, mais tu dois être meilleur. C'est trop bizarre.
Et comment ça s'est enchaîné après votre première scène? Donc, toi, t'as eu tous les deux le premier open mic. Donc, toi, tu l'as dit, t'as commencé un comedy club rapidement à Bastogne, parce qu'il n'y a rien à Bastogne.
Il n'y a rien.
Et après, donc, il y a le Next Prince pour toi. Et toi, Yelena?
Moi, Next Prince. Mais moi, je jouais beaucoup plus qu'Hugo, en fait, parce que Hugo, il restait à Bastogne, il faisait rien du tout.
Mais toi, t'as charbonné l'été.
Ouais, en fait,
moi, l'été, j'ai rien fait. Elle l'a fait genre 30 open mic, je crois.
Ouais, j'ai fait blindé. Non, 30, t'abuses. Mais en fait, j'ai eu la chance que j'ai commencé au moment où il y a eu les Belges à Avignon. Mm-hmm. Et donc, en fait, il n'y avait personne à Bruxelles.
Ouais, ok, ouais.
Et du coup, il y avait plein de places qui étaient libres et plein d'endroits. Et voilà, ouais, c'est comme ça que ça s'est mis. Du coup, en fait, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de scènes l'été.
Mais aujourd'hui, vous jouez tous les deux beaucoup. Il y en a, j'ai compté entre septembre et décembre de cette année-ci. T'es monté 102 fois sur scène.
Oh waouh!
Parfois plusieurs fois le même soir. Hugo, tu joues également beaucoup. J'ai pas su compter parce que toi, tu n'as pas indiqué toutes les dates.
Ouais, c'est un truc que je change à chaque fois.
Tu changes à chaque fois. Et du coup, on n'a pas toutes les dates depuis septembre, mais j'étais là. Waouh! Mais vous jouez tous les deux pas mal. Surtout Ilona, qui joue vraiment beaucoup.
Ouais, moi, ça va un peu mieux qu'avant. Il y a eu une période où c'était vraiment énorme.
Ouais.
Ouais.
T'en avais besoin de jouer beaucoup?
Ouais, toujours. Hein. Mais là, même si on me demande encore de jouer 3 fois par soir, je le fais. 100%.
Okay. Ça marche. Mais j'adore d'ailleurs quand tu mets tes dates de spectacle, ça a toujours une photo de toi quand tu étais petite,
ouais.
Qui sont trop mignonnes à chaque fois et ça m'éclate promo. Mais est-ce que c'est important pour vous de jouer beaucoup? Est-ce que vous trouvez que ça vous permet de progresser et en le faisant? Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'aiment pas jouer plusieurs fois par soir, ils n'aiment pas jouer plusieurs fois par semaine, ils aiment bien étaler un petit peu, se laisser du temps pour écrire. Est-ce que vous trouvez que ça vous aide de travailler de cette façon-là en montant beaucoup sur la semaine?
Je ne sais pas trop quoi dire parce que je pense que c'est un peu à double tranchant. Tant ça m'aide beaucoup, tant des fois je me retrouve dans des endroits où je suis là, qu'est-ce que je fous? C'est de la prostitution à ce niveau-là. Genre vraiment, il y a des scènes que je fais où je vais loin en voiture et je fais des scènes mais misérables où après je me dis que je suis trop nul et que ça sert à rien. Alors que le lendemain, j'avais une super scène et que j'étais pas obligé de me niquer le planning comme ça. Mais ouais, pour moi, c'est important. Après, je crois qu'il n'y a pas tellement de règles. Il y en a qui vont dire que c'est mieux d'aller dans des conditions hyper compliquées. D'autres qui vont dire tout l'inverse. Moi, franchement, j'arrive pas trop à me positionner. Je crois que c'est pour ça que je dis encore oui à tout ce qu'on me propose. Mais...
Ok. Toi, Hugo?
En fait, de manière un peu primaire, tu vois, quand on a un double booking qui est possible, on le fait. Parce qu'en soi, tu te dis, ok, c'est de l'entraînement. Et des fois, c'est de l'argent aussi, bêtement, tu vois. Mais souvent, on le regrette. Enfin, moi, c'est souvent le truc que j'ai. C'est que... Et des fois, le stand-up est fou. C'est que tu passes d'une scène où t'as presque une position starifiante, tout est là en mode, genre, il y a des lumières, il y a un régisseur son, il y a 70 personnes, les gens t'écoutent tous et tout. Et genre, l'autre fois, je fais un double booking, t'es au Kings où tu vois, là, t'as l'impression que t'es un peu, c'est vraiment un chouette sentiment, tu montes sur la scène,
les conditions
sont parfaites. tu quittes la scène pour aller ailleurs et tu te retrouves à jouer, enfin tu vois, genre limite dans une pizzeria, enfin je veux dire dans une bibliothèque où il y a 20 personnes, il y a pas de, enfin il fait clair, il y a 5 enfants au premier rang et t'es là en mode c'est trop marrant comme le passage, enfin tu vois. Et donc des fois ouais t'es un peu là en mode bon en fait j'aurais peut-être dû rester à l'autre plateau parce que aussi souvent c'est le truc des fois il y a le stand-up c'est quand même ce truc où on est tous ensemble on se connaît tous et tout et des fois avec le double voire le triple booking mais tu perds ce sentiment de enfin tu vois maintenant les plateaux du Kings on se croise quoi ouais. T'arrives il y a les deux premiers qui sont là on passe on s'en va t'as l'autre qui arrive salut ça va et on discute plus trop ensemble et tout et ça je trouve que des fois ouais, tu vas peut-être jouer 10 minutes en moins sur ta soirée, gagner 20 euros en moins, mais au moins tu auras passé la soirée dans le comedy club. Mmh. Tu peux parler avec le public après, mmh. Tu vois. Donc, ouais, des fois je pense qu'on accepte trop de scènes qui sont pas toujours, enfin, ça vaut pas toujours la peine. Et des fois, bah, si t'as 3 scènes de qualité le même soir, bah, en soi, autant toutes les faire et bosser un max, quoi.
Après, des fois, faire les scènes plus compliquées, ça te fait progresser aussi parce que tu gères le côté, hein, il faut réagir avec ce qui se passe dans la salle, intervenir, parler avec le public. Donc, tu développes aussi cette capacité à le faire que dans une soirée comme au Kings, généralement, où tu as tout un public très calme qui est habitué à voir du stand-up qui juste se marre et applaudisse au moment où ils doivent le faire. Après, les deux sont cool. Je préfère clairement jouer dans des bonnes conditions.
Bien sûr. Hein.
Tout le monde, hein, je pense.
Mais ça développe des skills un peu.
Ouais, c'est vrai.
Et des fois, moi, j'aime bien cette énergie de oh, c'est dur.
Ouais, ouais. C'est le formateur,
premier,
ouais.
Ouais, quand tu passes pas premier. Mmh. Tu vois le premier qui passe, tu fais ouh, c'est dur. Le deuxième qui passe, ouh, c'est dur. Le troisième, fou. Ok, il faut pas que je fasse ça. Faut que j'arrive avec un truc. Et il y a des fois, je suis arrivé avec un truc de je m'en fous. Je vais à fond. Je lâche tout. Genre, je suis épuisé après limite. Et ça se passe trop bien. Et je fais, yes, j'ai réussi à l'avoir. Ouais. Si j'étais passé premier,
ouais,
je me serais fait descendre
premier, c'est toujours quand même une angoisse, quoi.
De ouf.
Ah ouais.
Parce que tu stresses pour le plateau de manière générale et tu stresses parce que tu sais pas comment est le public alors que tu sais un peu apprivoiser quand tu es deuxième ou quoi, tu comprends, mais quand t'es premier, mais quel enfer.
Mais du coup, ça me fait une petite transition. Quelle a été votre pire et votre meilleure scène à date?
Ouh. Oh waouh. Ah, moi, ma pire scène, c'est ma plus grosse scène en plus.
Ok.
C'était.
Hugo rit à ce moment-là, j'adore.
C'était horrible, mec. C'était au Festival du Rire de Bastogne, du coup.
Ah ouais?
Mais le plus gros beat de l'histoire, quoi. J'ai parlé hyper vite, j'étais hyper stressé. En fait, j'avais 4 mois de stand-up, c'était en octobre. Et je me retrouve devant une salle de 700 personnes, je crois.
Remplie avec le balcon et tout. C'était sur un peu moins de 700, 690.
En gros, on était 5 à faire ce concours, c'est ça? Il y avait Fabio, Sarah Lélé, Lorenzo, Juan et moi. Et moi, j'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce que je fous là? Ça n'avait aucun sens, quoi. Et je me suis rétamé, vraiment. Et à la fin, tu dois être sur scène. Tout le monde applaudit, on recevait des prix. Il y avait plus de prix que de participants. J'en ai pas reçu un seul. C'était horrible. J'étais là, merci beaucoup. C'était vraiment le pire sentiment de la Terre, je crois. Et la meilleure, je sais pas, c'est dur à dire. Ou alors, toi, dis d'abord ta pire.
Ma pire scène, c'était il y a pas si longtemps, en vrai. C'était okay. Au Columban à Wavre. Je crois que c'est la première fois qu'il faisait, parce qu'il y a la salle, mais là, c'était dans le bar. Et une nouvelle fois, c'était un peu tout éclairé. C'est un public très vieux, très... Et il n'avait pas envie d'être là. Le passage était horrible, quoi. Parce qu'en plus, on était 3, donc c'était un 3 x 20. Et 20 minutes où ça va pas, quoi. Tu vois, tu dis tes blagues, ça va pas. Et donc, moi, j'ai tendance à, quand ça va pas, ok, je vais faire de l'interaction, mais c'était pire, quoi. Genre, il y a un mec qui a été vexé, qui s'est retourné.
Ah
donc,
oui.
Il a tourné le dos à tout le truc, quoi. Donc, ça, je crois que c'était vraiment le pire truc.
Sympa. Et la meilleure scène. Souvent, ouais, souvent on a plus de mal à trouver la meilleure scène.
Je sais pas.
Une qui vous a marqué en particulier, la première qui vous vient, c'est peut-être.
Bah, moi, une qui m'a quand même vachement marqué, c'est le Trocadéro à Liège. C'est quand même impressionnant. C'est une grande salle mythique. Enfin, moi, tu vois, à Bastogne, si tu vas voir un spectacle, bah, vu qu'il n'y a que le Festival de Rire, bah, le reste de l'année, on va soit à Luxembourgville, à Liège ou à Bruxelles. Donc, je connaissais le Trocadéro, qui est quand même une grosse salle. Ça doit être un peu comme le Festival de Rire de Bastogne.
Okay. Je crois que c'est 1000 la capacité, mais ils étaient pas à 1000 quand
ouais, c'était...
ils étaient à 600.
Mais ils étaient bien remplis.
Ouais.
C'est une très belle salle. Et donc, t'as vraiment ce truc de, OK, là, on passe dans un autre monde. T'arrives à 15h, il y a les balances, tu vois le truc. Enfin, tu vois, les gradins, ils sont dorés et tout. C'est impressionnant.
À fond.
Et tu te dis, ça va pas être possible, quoi, de faire une bonne prestation ici. Et au final, là, c'est... En fait, quand t'es sur scène, la première minute est horrible. Moi, je me souviens, j'avais l'impression dans ma tête que j'étais tout rouge, tu vois, comme une première présentation de classe. Et quand tu vois que ça se passe bien, là, tu te dis, OK, si on travaille pendant l'année, c'est pas pour ce genre de truc, tu vois, genre, c'est immense, quoi, tu vois, 700 personnes qui rigolent et tu te prends les vagues de rire, c'est, là, ouais, tu c'est dis, énorme, ok, hein. Ouais, ouais.
Et même les applaudissements, ils durent longtemps.
Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu te dis, ok, ouais. Si j'ai bossé et que y a un mec qui m'a tourné le dos à Wavre, c'est pour ce genre de truc, quoi.
Et surtout, toi, t'as réussi à faire des interactions à ce moment-là. T'as fait un peu d'impro, c'était fou.
Ouais, c'était,
c'était vraiment fou. J'étais, mais quelle audace, quoi. Moi, j'ai un souvenir qu'à Fratin, le lendemain, ah ouais. On s'était super bien amusé. Donc, on a fait Trocadéro et le lendemain, on allait à Fratin. Et ça, c'était vraiment une ambiance, mais je sais pas ce qui s'est passé, c'était juste fou.
Mm-hmm. Après, c'est difficile. Je crois qu'on aurait plus facile à dire la meilleure scène de l'autre, mais vu qu'on joue tous les deux, on se voit pas trop, trop souvent non plus. Après, on est quand même parfois sur le même plateau. Mais j'ai l'impression que d'avoir vu, je crois que c'est la scène où pour moi, j'ai vu ton meilleur passage, quoi. À Fratin, c'était vraiment...
Mais parce que la veille, j'avais fait Trocadéro, moi, ça, j'étais trop stressé, c'était pas fou du tout.
Okay, ouais. Et donc là, c'était incroyable, quoi. Genre, c'est vraiment le genre de scène où, je sais pas, mais toi, Ilona en particulier, genre, elle disait, tu vois, chaque même demi-vanne qui d'habitude sont des transitions d'une vanne à l'autre, les gens applaudissaient, quoi. Donc, il y a eu genre 25 applaudissements.
Mais j'ai joué 20 minutes au lieu de 8, je crois, ou 10. On devait faire 10, j'ai joué 20 minutes, ça, je sais pas.
Ouais. Okay. Conclusion du podcast, elle respecte pas les timings.
En plus, d'habitude, je respecte vraiment.
Ouais, c'est moi qui respecte pas les timings.
Je t'en fous complètement.
Mais quand ça se passe bien, tu respectes pas le timing, c'est tout.
Apparemment, c'est ça. Ça arrivait deux fois. Voilà.
Mais là, c'est vrai que, bah là, de toute façon, elle pouvait pas dire que ça s'était pas bien passé, tu vois.
C'était impossible.
Donc là, c'est une des seules fois où elle est sortie en disant.
Non, j'ai quand même dit en mode, je crois que j'ai dit, ah, la dernière vanne est pas très bien passée. Je crois que j'ai dit, ça a fait un peu comme ça.
Ça t'aide pour pas te reposer sur tes lauriers ou...
Je crois, en fait, je sais pas trop, mais je pense que comme Hugo a justement dit, c'est vraiment un moteur. Je pense que si je dis que c'est bon, bon, je dirais jamais ça en fait, je pense déjà. Donc je sais pas pourquoi je me pose la question. Non, j'arrive pas à...
Mais quand on te le dit, tu sais prendre le compliment? Genre moi, si je te dis là maintenant que je trouve que t'es trop forte et que...
Ah non, c'est hors de question, je vais être là. Oui, oui, merci beaucoup. Je m'en...
Mais... T'es trop forte.
Arrête, non. C'est fou ça.
Sinon, je te reprends pas dans le podcast. Moi, t'es vraiment quelqu'un qui m'éclate. Je trouve que t'as trop un rythme et une énergie dans le truc. Comme disait Hugo tout à l'heure, c'est super personnel, c'est super à toi. Genre juste, t'as nommé ta voix et ça me fait trop rire. Cette partie-là m'éclate.
C'est bien gentil.
À chaque fois que je le vois, je connais les blagues par cœur.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Ce passage-là, on
tout le monde connaît par cœur.
On connaît tous les passages un peu de chacun. Ah ouais. Je peux faire le sketch sur Jeffrey Dahmer.
Ouais, c'est ça.
À force, on se voit. Mais je les aime trop. Tu vois, c'est à ce moment-là que tu vois qu'une blague est bonne, c'est que moi je la vois 8 fois. Quand tu fais on va jouer au loup, je ris à
quatre. Ah ouais,
je ris
ça.
À chaque fois.
Alors que celle... je crois que ça c'est une de mes blagues préférées et c'est pas celle qui passe le plus, quoi. Pourtant c'est trop malin. Quand j'ai écrit le chat, c'était trop bien.
Et je vais vous demander un petit peu, c'est quoi votre méthode de travail? Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que vous écrivez jamais? Est-ce que vous écrivez tous les jours?
Donc moi j'écris très rarement, en vrai. Ah, c'est beaucoup de...
Ça fait plaisir à entendre ça.
Ah ouais.
Parce que ça me fait du bien de...
En fait,
ça me rassure un peu.
Ce serait un mensonge de dire qu'on écrit tous les jours.
Tu vois, il y a des fois où tu te mets devant... Enfin, ça m'est arrivé 2 fois. Et une fois, il n'y a pas très longtemps, genre il y a une semaine, où je me mets devant Word. Et genre, après 10 minutes, je ferme parce que je suis là en mode... En fait, il n'y a rien et c'est pas naturel, tu vois. Et j'ai déjà joué un texte que j'avais écrit en mode, ok, il faut écrire. Et ça sortait pas naturellement. Moi, je m'amusais pas. Ça n'a pas marché. Donc, en fait, moi, c'est beaucoup de... Je réfléchis beaucoup quand je suis seul en voiture ou des situations que je vis. Donc là, je prends mon téléphone, je note dans une note où il y a genre 40 thèmes. Genre, il y a des trucs que j'utiliserai jamais. Genre, je les ai écrits il y a 1 an et des fois, je sais plus ce que ça veut dire, tu vois. Genre là, le nom de la note, c'est 40 ans glissade bourse. Et je suis là en mode, bah, ça veut dire quoi, tu vois? Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça, donc je vais jamais écrire sur ça. Et donc après...
Ça sera le titre de son spectacle.
C'est ça.
40 ans glissade bourse.
C'est hyper drôle.
Ça, moi, je vais le voir le spectacle pour savoir pourquoi.
Et donc, une fois, ça part souvent d'une blague, en fait. Donc, une fois que j'ai la blague qui m'est venue, là, je commence. Je me dis, ok, là, j'ai 2 heures devant moi. J'écris le thème et là, bah, je pars sur ça. Et puis souvent, pour la plupart des trucs... Une fois que j'ai écrit, je vois Lorenzo Mancini, super humoriste, que je vois une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et donc là, on met en commun ce qu'on a écrit. On n'écrit pas ensemble, quoi. On okay. se fait des débriefings sur ce que l'autre a déjà écrit.
Et vous rajoutez des blagues l'un pour
l'autre? Ouais, exact.
Ok, un peu en mode ping-pong. Mm-hmm. Est-ce que t'as pensé à faire ça?
Ouais, voilà. Ouais, là, va plus loin. Là. Nice. C'est trop bien, vu que des fois, je vois son truc, il y a des blagues que j'ai écrites. Lui, il a écrit des blagues pour moi. Et, tout
et toi, tu ne parles pas spécialement de toi sur scène. Est-ce que c'est parce que ça t'intéresse pas ou c'est juste pas quelque chose qui t'inspire?
Bah, en fait, je parle au tout début, comme elle a dit, je me présente, j'explique l'énergie. Ouais, en fait, ma manière de parler de moi, c'est de parler d'où je viens, je crois, tu vois. Parle un petit peu de moi au début, mais c'est même pas, les faits que je dis sont même pas vrais, tu vois, donc, sur ma famille et tout. Donc, non, c'est vrai que je parle. Mais je crois que là, je vais essayer de réécrire, justement, quand je parlais pour la Suisse et tout, de réécrire quelque chose d'un peu plus proche de moi. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je parle pas énormément de mon passé ou de. Vu qu'en fait, c'était très plat et mainstream, tu vois, genre, c'était un mec de Bastogne qui joue au foot. Et qui, enfin tu vois, genre,
ça s'arrête là.
Ça s'arrête là.
Un peu comme, bah, comme Guise, il parle pas non plus énormément de lui parce que, bon.
Ouais, il y a quand même quelques trucs quand il parle avec son père.
Ouais, voilà, c'est plus familial. Donc, moi, c'est
la relation, enfin, c'est son point de départ et après il étend sur comment tu es avec tes parents et.
Ouais, voilà, bah là, c'est sur ce que j'écris pour le moment, c'est des trucs que j'ai vécu avec mon père quand j'étais plus jeune, quoi, tu vois. Donc, je crois que je vais plus parler de là d'où je viens et de mes proches que parler de moi personnellement comme toi tu le fais avec l'école, quoi.
Ok. Et toi, Ilona, comment est-ce que tu travailles ?
Moi, aucune méthode de travail. Vraiment, c'est comme pour l'UNIF. Je comprends pas comment on travaille. Il y a beaucoup de fois où j'essaye de m'imposer un rythme où je me dis, ok, je vais écrire 10 minutes 3 fois sur la journée. Enfin, j'essaie de me faire des espèces de pomodoro, dori. Je sais pas si ça se conjugue, ce truc.
Je sais pas.
C'est une sauce, ça,
pour moi. Pomodoro, c'est de la sauce tomate.
Tomate, ouais.
Ouais, c'est ça.
Mais vous voyez pas ce que c'est? C'est un truc où tu fractionnes, fractionnes deux heures.
Moi, je me fais une pomodoro. À tout moment, je me fais une pomodoro. Ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais j'adore la pizza. Ok.
C'est quoi? À mon avis, c'est les trucs, là. Avec des branches qui partent.
Non, ça, c'est un mind map.
Ah ouais.
Ça n'a rien à voir.
C'est quoi un pomodoro?
C'est en mode 2 heures fractionné en 4, tu vois.
Ah ouais?
Ah ouais, un pomodoro.
Bref, je sais
pas. Ah oui, ok, il y a le mot heure dans doro. Enfin, t'as un avis.
J'adore cette explication. Il y a des gens, tu sais, qui écoutent le stand-up, qui écoutent le truc, qui se disent, ah, je vais commencer le stand-up, comment on fait pour
quelle
écrire,
est la méthode
machin.
De travail?
Ah, Ilona, j'aime trop ce qu'elle fait, comment on fait. Pomodoro.
Ils vont noter sur Google la méthode pomodoro.
Tu sais qu'ils le réutilisent après.
Mais
c'est quelqu'un.
Mais ça existe.
Hein, il fait sa première scène de stand-up, il fait, ah, ben, tu sais, quand t'écris, il faut que tu fasses un pomodoro. Ilona, elle faisait ça.
Ouais, du coup, je fais ça. Ce truc abstrait où ça fractionne 2 heures en 25 minutes. Enfin, en 4, ça, tu vois, tu fais 25. Une petite pause de 5 minutes. Bref, je m'impose un peu de faire de l'écriture automatique parce que moi, comme je raconte pas des faits loin de moi, faut que je vive des trucs pour après les transformer en blagues. Vu que tout ce que je raconte est malheureusement, et des fois heureusement vrai, mais du coup, il faut que je vive des trucs. Moi aussi, ça me rassure de ouf quand les gens disent qu'ils écrivent pas de ouf parce que qu'est-ce que c'est stressant, je trouve, l'atmosphère. De t'as toujours pas écrit du neuf et tout. C'est quand même un truc qui me stresse et me freine.
Mais moi, je suis dans un peu la même vibe que toi à ce niveau-là. C'est que des trucs sur moi et que des trucs qui me sont arrivés et que des trucs personnels. Et il faut que je vive des trucs, mais à un moment donné, tu ne vis plus de nouvelles choses sur lesquelles écrire. Après, il y a des gens qui vont dire, mais tu peux écrire sur tout. Et je fais, ouais, c'est des fois c'est chaud, quoi.
C'est
ça, difficile. Hein. Mais j'aime bien entendre ça, tu vois. C'est aussi un des trucs que j'aime dans le fait de faire le podcast, c'est que j'entends des gens qui me disent, ah, moi j'écris tous les jours. Je fais, ok. Puis après, il y a des gens qui me disent, ah, moi j'écris une fois de temps en temps quand j'ai de l'inspiration. C'est chouette de voir qu'il n'y a pas de.
Il n'y a pas de méthode, quoi.
Tu es quand même la première à me dire que tu fais une pomodoro, tu vois. C'est,
ouais, c'est pâtes, ça. Moi. Dès que j'ai envie d'écrire, je fais des pâtes.
Il y a 80 épisodes, c'est la première fois qu'on dit ça, tu vois.
Mais je crois qu'on y gagnerait tous, ce que je lui disais l'autre fois, à arrêter pendant un mois, vivre des trucs.
De ouf.
Genre, reprendre la vie d'avant, tu vois. Genre, tu revois tes potes tous les jours, tu vis des trucs. Et je crois que là, tu auras. Pour écrire limite un spectacle des fois. Mais le truc, c'est que c'est impossible d'arrêter pendant un mois, tu vois. Parce que je crois qu'on aime tellement le faire qu'on a envie de tryhard le truc et tout. Que... Ah, et puis on t'oublie vite, ça.
J'ai trouvé
le pomodoro.
Non, mais c'est vraiment avec la tomate.
Ah, oui, c'est une tomate. C'est une tomate. En mode, c'est 25 minutes temps de concentration, 5 minutes pause, 25 minutes. Ça, 4 fois, quoi. Après, tu fais une grosse pause.
Donc, c'est le principe de la tomate, quoi.
Ouais. C'est ça, voilà.
Est-ce qu'il y a un lien avec les tomates ou il y a quelque chose?
Je sais pas, pourquoi.
C'est peut-être le temps de cuisson d'une tomate farcie.
Tu peux un peu la sortir toutes les 25 minutes, tu la sors 100 minutes.
On va se renseigner, on va débunker ça. Ilona, t'as aussi tenté l'expérience de la chronique radio sur BX1, sur Tipeee. Et c'est la première chose qu'on voit quand on te cherche sur Google.
Oh non, l'enfer, c'est pas vrai.
Ça et ton soutien pour Ljubljana de The Voice. Il y a un tweet de toi qui ressort où tu dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas voté pour elle.
Waouh. C'est quelqu'un de très engagé. Hein.
C'est les deux choses qu'on voit.
Mais tu sais que j'ai essayé de supprimer ce tweet, mais j'ai perdu mes comptes Twitter. Du coup, je n'y ai plus accès. Il y a plein de photos de moi un peu embarrassantes aussi sur Google quand tu tapes mon nom.
Ah, c'est pas les premiers.
Bon, je suis petite, ce qui est quand même vachement étrange et pas du tout safe, je crois. mais oui, oui, BX1, j'ai fait et je vais encore en faire. Et je suis en backup sur Tipeee. Enfin, je sais pas si je suis encore en backup sur Tipeee parce que eux, ils m'ont pas donné vraiment de retour de la chronique que j'ai faite.
Mais comment tu as apprécié le fait de faire des chroniques radio?
J'aime beaucoup.
Ouais, t'aimes bien?
À fond, j'aime beaucoup. À nouveau, j'écris entre minuit et 2h du matin la chronique, donc c'est hyper sain. Et après, je dors de 2 à 4, je crois. Et puis, je me relève pour aller pour réécrire et puis pour aller à la radio. Donc, un peu intense. Je commence très mal mes journées quand il y a des chroniques. Mais j'aime beaucoup. Franchement, ça me permet d'écrire dans un autre style d'écriture et qui ressemble pas à ce que je fais sur scène, donc c'est chouette. J'aime beaucoup. Toi, t'aimerais bien aussi, je pense, non?
Ouais, j'aime bien.
T'as déjà eu l'occasion de te tester?
Alors, j'ai fait une chronique pour un match de foot, tu vois. Okay. C'était avec un atelier avec Benjamin Dessedinck, tu vois, qui anime la tribune. Mais je crois que c'est le...
Ah, c'est lui qui anime aussi les trucs pour la Coupe du Monde et tout.
Voilà, ouais, c'est lui l'animateur. Et donc, c'était mon prof cette année à l'IEX.
Ah ouais?
Mais je crois que c'est un peu, ouais. C'est le but. Vu que j'aime beaucoup le foot, le seul moyen que j'aurais de lier le journalisme sportif à l'humour, c'est de faire des chroniques humoristiques sur un plateau.
Un peu comme l'a fait Alex Vizorek avec...
Voilà, Alex Vizorek l'a fait.
Avec les pronostics.
Ouais. Et il y avait à un moment Martin Charlier,
oui.
Qui faisait aussi le personnage de Kiki l'Innocent, tu vois. Mm-hmm. Ça, c'est un truc que je connaissais aussi parce que je regardais la tribune. Et donc là, ils ont envie d'amener un truc un peu plus stand-up nouveau. Et donc, il m'en a parlé et donc franchement, si l'année prochaine j'ai cette ouverture de pouvoir faire un truc à la tribune ou même pendant les plateaux pour l'Euro 2024, bah en vrai, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et ça sortirait aussi de ce que je fais sur scène, quoi, tu vois, de devoir écrire dans un thème hyper serré et précis.
Ça marche. Mais quand on cherche Hugo Simon sur Wikipédia, sur Internet, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la page Wikipédia d'un cavalier autrichien.
Ouais. C'est ça, oui. Hugo Simon, cavalier. Voilà. C'est par là que je suis lié à Elon.
C'est ça. Et après, il y a quand même plusieurs articles de journaux de Bastogne où tu deviens un peu la célébrité de ta région.
C'est trop marrant.
Trop marrant.
Dans l'avenir, non, c'est ça?
C'est ça. T'as une interview dans laquelle on te demande comment tu as commencé le stand-up et tu expliques avec une Guillermo Guise.
Ah, voilà.
Donc tu deviens un peu la star de Bastogne. Tu es d'ailleurs la seule personne de Bastogne que je connaisse.
Il y a Thomas Meunier qui vient de Bastogne.
Joueur de l'équipe nationale. Thomas Meunier, mais oui. Alors et voilà, tu viens de passer en numéro 2 dans mes préférences. Ouais, c'est ça.
Et puis notre bourgmestre qui est quand même connu, Benoît Lujan, politicien. Et les Mantra Icewatch aussi de Bastogne.
Les
Mantra Icewatch.
Les montres Icewatch.
Ouais, bah c'est le frère de notre bourgmestre.
J'ai cru que c'était un seul mot.
Non.
Les montres Icewatch. Qu'est-ce que c'est que les montres
Icewatch? C'est un Pokémon.
C'est un groupe.
Ça, les Pomodoro, mec, ça devient intense.
C'est un truc de jeune que je ne connais pas.
C'est la méthode Cannelloni.
Et je voudrais vous demander un peu, c'est quoi votre rapport avec les réseaux sociaux? Donc le fait d'utiliser ça pour le stand-up, donc je parlais tout à l'heure de, par exemple, t'as les photos de toutes les dates avec toi quand t'étais petite, que moi je trouve c'est mignon, c'est sympa et ça permet de partager l'info. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer, quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous freine un peu? C'est quoi un peu votre rapport à ça?
Bah moi je t'avoue que c'est la grosse question pour le moment, tu vois, parce que j'ai l'impression que maintenant il y a une obligation en soi. Tu vois, c'est là où je te dis, pour moi, le spectacle de Dena, c'est le meilleur spectacle que j'ai vu. Mais vu qu'il n'y a pas la notoriété immense, elle n'a pas 300 000 abonnés.
Oui.
Ce qui, pour moi, c'est ce qu'elle mériterait d'avoir, tu vois. Bah, le truc, c'est que tu ne sais pas aller dans le sud de la France si tu n'as pas des gens qui te suivent là-bas. Et donc, moi, je ne suis pas très... en fait, j'ai pas envie que les gens viennent me voir pour quelque chose qu'ils ont vu sur les réseaux et que je ne vais pas faire sur scène, tu vois. Mm-hmm. Donc, j'ai pas envie de faire du facecam où je fais des blagues en facecam, etc. J'ai envie de leur proposer quelque chose de leur donner envie de venir voir sur scène, mais sans brûler, tu vois, mon meilleur matos en mode. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai 30 minutes, j'écris
un passage prévu.
D'actualité, ouais. Ou j'écris sur Frenchie Shore, j'ai écrit sur Amélie Oudéa-Castéra en France, la ministre de l'enseignement. Et donc, là, j'essaye de capter à chaque fois un petit passage que après.
T'avais aussi fait, c'est des petits articles de journaux.
Ouais, ça aussi, tu vois.
Un peu journaux parodiques.
Mm-hmm, c'est ça. La soirée, qui était une parodie du soir. Normalement, je vais continuer, mais c'est beaucoup de boulot, tu vois, parce qu'au final, on a, 2-3 000 abonnés. tu travailles tout ça l'année, enfin tout le mois tu travailles ce journal et au final il n'y a que tes amis qui le voient, tu vois. Parce qu'en fait maintenant le but, bah oui, c'est de buzzer, tu vois. Genre, moi c'est pas le plan et le truc que je préfère, mais aujourd'hui tu te dis, bah voilà, enfin tu vois, c'est simple, hein, pour Bruxelles, pour remplir ta salle, bah c'est quand même ceux qui ont plus de notoriété qui remplissent le plus facilement. Et donc je crois que j'ai envie de proposer, ouais, des réels sur scène et j'aimerais bien venir avec un nouveau concept quand je reviens de Suisse. En fait, j'aimerais faire... Bah, en fait, c'est un peu la même chose que les trucs d'actualité. C'est de mettre un fond vert et de faire un JT 19h30 où je fais 2 minutes de blagues sur scène avec public sur l'actualité. Okay. Et après, je poste ça à chaque fois. Et donner aux gens l'envie de dire, OK, ce qu'on a vu là, on a envie d'être là en direct la prochaine fois, tu vois. Mais voilà. S'il y avait moyen sans, je ferais sans, quoi.
Et j'ai vu aussi passer, c'est t'as mis des posts avec polo bleu niveau 1.
Ouais, c'est ça.
Tu peux expliquer un petit peu?
Bon, en gros, quand j'ai commencé, surtout au Next Prince, à chaque tour, je jouais exactement avec le même polo. Mm-hmm. Tu vois, parce que je trouve qu'au-delà du personnage, il y a quand même besoin de... Je trouve que la tenue est importante, tu vois. Une fois, tu vois, j'ai ce personnage très détaché, nonchalant. Une fois, j'ai joué avec un pull à capuche. Bah, quelqu'un m'a dit, ça n'allait pas, tu vois. Genre, par rapport à ton personnage, oui, il y a un décalage... En mode là, on dirait que t'es un mec, enfin, jeune, cool et tout, enfin, mm-hmm, alors que c'est pas ce que tu veux. Et donc, je trouve qu'une tenue un peu, et donc, j'ai joué beaucoup avec ce polo vert et orange, là, je sais plus, dans la première saison de stand-up. Mm-hmm. Et donc, j'avais fait ce truc une saison, un polo où chaque année, bah, je change de polo et ça prendra, enfin, mon Insta va prendre les couleurs du polo, quoi.
Okay.
Donc là, cette année, c'est un polo bleu et blanc, bah, toutes mes publications, je les mets en bleu et blanc.
Et je trouve que l'affiche est trop belle, au passage.
C'est vrai, bah, merci. Bah, voilà, c'est ce polo-là, justement.
Ouais, j'aime beaucoup le style que t'as fait pour l'affiche, je l'ai trouvé vraiment cool. J'étais là, wow, stylé de ouf.
Voilà. Bah, mon graphiste Romain Demort est très doué. Voilà.
Ok, et toi, Ilona, c'est quoi ton rapport avec les réseaux sociaux?
Moi, je crois que c'est vraiment à nouveau comme dans la projection de plan de carrière. À nouveau, les réseaux sociaux, je suis personne pour faire des trucs de ouf sur Insta. J'aime pas faire des réels. Enfin, je crois que ça me ressemble pas du tout. Là, le seul truc que je fais, c'est les petites dates parce que je trouve ça trop marrant, ouais, et que j'aime bien. Enfin, moi, vraiment, j'aime bien faire ces petits collages et ces petits trucs.
Puis c'est vraiment
mettre mes dates. Ouais.
Les gens voient tes dates.
C'est surtout mes colocs, hein, qui regardent quand je suis à la maison, du coup. Grâce à ça, elles peuvent savoir quand je dors à la maison et tout et quand je serai là. Mais non, j'ai pas du tout. Enfin, je sais pas si vous avez vu sur mon Insta, il y a presque rien comme publication. Et j'ai pas envie d'en faire plus. Donc, je réponds pas trop à ta question parce que honnêtement, je sais pas du tout comment me positionner face aux réseaux sociaux. Ça m'angoisse de rien toucher. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'être sur TikTok, sur avoir une page Facebook et tout. Enfin, je trouve que c'est déjà assez anxiogène comme ça, le milieu IRL. Alors, si en plus sur les réseaux, moi, ça me stresse trop.
Non, mais je comprends. Moi, si j'avais pas le podcast. Et enfin, moi, je partage les dates, je partage en story les gens ou les trucs ainsi, parce que moi, j'aime bien, parce que je regarde les passages de tout le monde, parce que j'aime trop ça, donc je filme, mais je partage sur les réseaux sociaux. Mais faire une vidéo face cam, c'est mort, quoi. J'arrive pas du tout à faire ça. Me filmer, marcher dans la rue. Je suis allé l'autre jour à Fratin, d'ailleurs, pour faire la scène avec Félicien. Et Félicien prend son téléphone et commence à faire une story.
Oh, wow.
Super naturellement, mais moi, j'admire.
Hein, bah, Nikos aussi fait ça beaucoup, Nikos, ça doit être trop bien.
Mais lui, mais Sacha, il le fait beaucoup. Sacha, ouais. Ça a beaucoup pris, ça a permis de remplir ses salles et tout. Mais je le voyais faire, j'étais là. Jamais
quoi.
Jamais, j'arrive à. Déjà, il me filme 4 secondes, je savais pas quoi dire. J'étais là, je sais pas ce que je dois faire. J'aimais pas ce
la vibe, quoi.
J'aimais pas la vibe et c'est pas naturel du tout pour moi de faire ça. Mais j'adore être sur scène et c'est la partie de la scène, mais c'est ça, faudrait que j'arrive à montrer des extraits, mais j'ai pas envie de montrer les trucs que je fais non plus. Je fais pas beaucoup d'actualité, enfin quand je dis je fais pas beaucoup, je sais pas pourquoi j'ai dit beaucoup, je fais pas d'ailleurs. Quand t'as dit le nom de la mini, j'ai fait ouais. voilà, c'est plus dur pour montrer des trucs. Les seuls trucs que j'ai montré, c'est genre le gong show, parce que c'était filmé et déjà mis sur YouTube, bah, c'était déjà montré, donc autant que si c'est filmé, autant qu'il y ait plus de gens qui le voient. Mais c'est ça qui est marrant avec les réseaux sociaux, c'est que t'as l'impression de saouler les gens en partageant trop les trucs. Mais par exemple, tu vois, moi, les extraits du gong show, je me suis dit, ah, j'ai partagé ça à la blinde, je me suis dit, j'ai dû saouler les gens, ils en ont marre de voir mon sketch. Tu m'as dit, ah, j'ai pas vu que t'avais le passage, tu vois. Donc c'est marrant.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est comme pour le podcast. Vrai, ouais. Moi, je le partage, je tag les gens et tout. Après cet épisode, vous allez être tagué dans plein de trucs. Je vais être
c'est
un peu
très bien.
Vous allez voir tous les trucs que je vais partager, mais vous ne sentez pas obligé de le partager à chaque fois. Mais j'ai l'impression de saouler les gens et souvent.
Moi, il y a trop de ça aussi. C'est en fait la peur de spammer les gens. Je suis là, putain, les pauvres, quoi. J'ai pas envie de mettre plein de stories, de promos de ce soir, je joue là. Enfin, moi, ça me stresse trop que les gens soient en mode ouah, c'est agressif et c'est très.
Ouais. Mais au final, pas tant que ça, parce que moi, il y a des épisodes, j'ai l'impression de les avoir partagés 1000 fois et on me fait, ah, ça serait cool que t'aies, je sais pas, que t'aies Reda. Je fais, mais j'ai fait un épisode avec Reda. Ah ouais, t'as fait un épisode avec Reda? Bah ouais.
Ça, c'est
mais pendant
vrai,
deux semaines, j'ai l'impression d'avoir matraqué tout le monde,
que
je le repartage de temps en temps. Et alors, en fait, que les gens me disent, oh, je savais pas.
Ouais.
Tu vois, alors que. Mm-hmm. T'as l'impression de saouler les gens et d'être trop observé, mais en fait, les gens s'en battent les couilles.
Ouais, et puis là, il y a quand même un truc où il faut gérer les algorithmes et tout. Enfin, il y a quand même beaucoup de données que moi, perso, je touche rien et j'ai pas envie parce que je pense que ça... Moi, en tout cas, je pense que ça va me rendre un peu parano du nombre de vues, des trucs. Ouais. Enfin, tout est fait pour que...
Oui,
tout,
ouais. Bah, tu regardes, hein, dès que tu postes un reel, tu veux aller voir le nombre d'écoutes.
Ouais.
Moi, le podcast, je vais voir tous les...
C'est d'office, mais tout le monde
fait
ça.
Chaque épisode.
Tout le temps, hein, tu vois.
Tout le monde, ouais. Moi, dès qu'on a mis nos spectacles en ligne, je crois qu'on est... Moi, j'étais la personne qui était le plus sur la page de Kings pour voir à quel point les places se vendaient ou pas.
Enfin, je regarde tout le temps. Hein.
Tout le temps, quoi. Ouais, et du coup, moi, je pense que j'ai pas envie. Et contrairement à Hugo, toi, t'as dit que là, maintenant, il fallait genre buzzer. Moi, c'est un truc que j'ai pas du tout.
Pas du tout. Tu penses pas à ça pour
le moment? Non. Juste envie d'avoir un bus.
Un bus?
Je veux avoir un.
Tu veux avoir un bus? Là, ça demande une petite explication.
Je sais pas, c'est trop bien.
Un bus de la tech ou tu veux.
Non. Je sais pas, dernièrement, j'étais en voiture et je voyais un bus privé et j'étais ah ouais, mais je veux tellement ça pour aller.
Un tourbus, quoi.
Ça, c'est mon objectif.
Ok, trop marrant.
Donc, si je dois buzzer, c'est vraiment contre un bus, quoi.
Tu peux mettre une affiche le long de ton bus.
Je veux un bus, c'est comme ça, j'aime tout le monde avec moi.
Vraiment un bus tour, quoi. Le truc, le truc de tourner un peu.
Ouais.
C'est moi, quand tu disais un bus, je te voyais vraiment. Conduire le truc de la tech, quoi.
Non, je veux des vides teintées et tout, et j'invite tous mes amis dans mon bus.
Ok.
Et on fait le tour, quoi.
Ça marche. Un peu, je sais pas si vous avez la ref, c'est dans New Girl, dans
l'anniversaire
de Schmidt.
Ouais.
Son 29 birthday.
Tu dois trop regarder cette série, mec.
Ouais, trop.
Ok. Cool.
New Girl, c'est notre recommandation.
D'accord.
Culturelle.
Vraiment.
C'est trop bien.
C'est trop, trop bien.
Qu'est-ce que je ris. Ok, ça marche pour les réseaux sociaux. Et si vous aviez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up, ce serait lequel? Est-ce que c'est l'écriture, la gestion de la scène? Peu importe. Qu'est-ce que vous trouvez qui est le point sur lequel vous devez progresser? Le jeu, le...
Moi, j'aimerais bien progresser un peu en écriture, beaucoup en espace scénique et comment je gère ça. Donc, je m'approprie le texte et la scène en même temps. Et ma mentalité que j'aimerais quand même un peu... Parce que ça, même moi, ça me fatigue, la vérité. Genre, ça me fout un peu la flemme de chaque fois être là. C'était pas terrible. Mais rien faire pour que ça change, parce que le lendemain, je jouais le même truc.
Ok. Mais parce que c'était bien passé. En fait, c'est juste ton appréciation.
Ouais, mais du coup, tu vois, c'est trop bizarre de dire que c'est nul et que tu changes quand même rien, tu vois.
Oui, j'avoue.
Donc, soit je change mes blagues parce que je trouve que c'est pas assez drôle, soit je change ma mentalité, mais je peux pas rester comme ça, c'est nul.
Toi, Hugo ?
Moi, c'est l'act-out. Genre le fait de... Vu qu'il y a quand même ce truc très monotone, je crois que sur une heure, ça va être compliqué. Et donc, il y a beaucoup de vannes que... Je trouve que quand une vanne fonctionne, je remarque souvent, par exemple, Souksou, tu vois. J'adore. Bah, Oudéna, elle le fait très bien aussi. La vanne fonctionne, donc les gens rigolent déjà à ce qu'elle dit, et après elle le joue. Et genre, ça fait encore plus rire les gens parce que c'est ce qu'ils ont en tête. Et je crois qu'il y a des vannes sur lesquelles je pourrais le faire, mais c'est tellement difficile pour moi, tu vois, de faire un mouvement et que ce soit naturel et bien fait, que c'est ce que j'aimerais améliorer. Tu vois, des fois j'ai des blagues où je me dis, ah ouais, là ce serait trop marrant, mais je me dis, ouais, je sais pas si je vais savoir le jouer, tu vois.
Okay, ouais.
Et donc, ouais, je crois que c'est dans ce truc de jouer la blague. Genre la vanne marche bien, bah ok, tu la joues, quoi. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Donc ouais, ce serait l'act out, okay. Quand même.
Et qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire de l'humour en général? Vraiment dans le métier d'humoriste.
Ouais, ce que j'aime le plus, il y a tellement de trucs. Je pense que moi, il n'y a pas un truc que j'aime plus qu'autre chose dans le stand-up, dans tous les bons côtés que ça, de jouer tous les soirs, de rencontrer tellement de gens que j'aurais jamais rencontré comme ça. L'écriture, ça me plaît de ouf. Faire rire, ça me plaît vraiment. De façon méga primaire, je suis trop bien de faire rire.
Mais
c'est
ça se
cool.
Voit.
Ouais, vraiment.
Ça, c'est aussi un truc que j'aime bien quand tu joues, c'est des fois les gens rient et t'as vraiment un truc de.
T'es content, tu vois. C'est
oui,
juste
vraiment,
content.
Au premier degré, mais c'est chouette.
Ouais, à fond. C'est le truc communicatif de dire putain, les gens ils repartent plus légers que ce qu'ils sont arrivés. C'est quand même cool. Mm-hmm. Surtout que les gens en ont un peu besoin. C'est aussi pour ça que je dis que les blagues de Prout c'est le plus drôle parce qu'il y a trop ce truc de qu'est-ce que t'as envie de raconter. Moi, je suis en mode, des fois, j'ai pas envie de raconter des trucs de ouf, juste c'est marrant. Mm-hmm. Et c'est souvent comme ça, hein. Les blagues les plus débiles sont celles qui fonctionnent le mieux, quoi. Donc, il y a un peu de ça. Et ce que j'aime le moins, je crois que c'est les vieilles personnes qui te disent « Tu mettras ça dans ton sketch ?» Ça, ça me met mal à l'aise. Ou alors quelqu'un qui te refait ton sketch devant toi et t'es là « Oula !» Ça me met mal à l'aise.
Ok. Toi, Hugo ?
Moi, ce que j'aime le plus,
c'est moi, dans le stand-up.
Belle transition. bien placé, franchement. Je vais juste garder ça.
La thune, en vrai. Non.
Quel connard.
Ce que j'aime le plus, c'est, ouais, c'est le truc de voir le sourire des gens, tu vois, genre de voir, enfin. Genre, moi, j'aime bien le défi de, tu vois, la personne, elle a l'air un peu grognon, tu vois. Et genre, pendant ton passage, tu la vois sourire et rigoler, ouais. Donc, je crois que c'est ça que je préfère le plus, c'est de te dire, ok, t'as quand même un pouvoir un peu bizarre, qui est de, les gens, ils sont inanimés, ils bougent pas, et parce que tu dis un truc, ils vont rigoler.
Mais t'es super fort dans l'interaction, moi, je trouve.
Ah ouais?
C'est vraiment, un truc de fou, hein.
C'est vraiment quelque chose que tu fais vraiment bien.
Alors que c'est un truc que je faisais pas du tout avant.
Zéro, ouais.
Je trouve que c'est vraiment bien. En plus, avec le personnage, il y a un petit côté décalé qui
mais
se met.
Mais t'es vif, quoi.
Ouais. Et on voit que tu prends le plaisir à le faire.
C'est ça.
De premier degré, d'être trop content. Mm-hmm. On voit que quand tu fais une interaction,
ouais, c'est ça.
Tu prends du plaisir à parler avec les gens. On sent pas ce truc. Oh, punaise, il faut que ça se passe bien, cette interaction, parce que sinon, ça va pas.
Non,
c'est limite, ça va te relancer.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça fait des. Enfin, il y a un changement de rythme par rapport au texte. Et ce que j'aime le moins, c'est ce côté, en fait. C'est ce dont on parlait avant, quoi, tu vois. C'est les réseaux sociaux que, en fait, c'est devenu un passe. Alors que c'est un autre métier, tu vois. Mm-hmm. Influenceur, c'est un autre métier. Et c'est devenu un passage obligé. Et je trouve que souvent ceux qui ont plein sur les réseaux sociaux sont pas forcément les meilleurs, tu vois. Et donc des fois je trouve qu'il y a un peu un truc à deux vitesses. Et donc il y a des gens, ils sont là, je suis là en mode pourquoi ils sont encore chez nous, ils sont trop forts, tout le monde doit les connaître. Et donc c'est un peu ce côté maintenant il faut y arriver sur les réseaux pour remplir ta salle, quoi. Tu peux être le meilleur, peut-être qu'au final tu feras jamais dans le stand-up parce que ce sera pas viable financièrement, quoi, tu vois. Je crois que c'est ce côté là que j'aime le moins.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière, à part un bus?
Oh, c'est un bus encore. Un bus. Un deuxième bus. du fun et des blagues. Oh, des bonnes blagues bien écrites. Nice. De Prout.
Pour la suite, justement, là, je sais pas. Tu vois, genre en mode... je suis toujours dans le truc, on a commencé pour... c'est ça, du fun, quoi. Kiffer, être sur scène et te dire, ouais... Là, je suis trop content d'être sur scène.
Encore.
Je trouve que jusqu'à présent, les séances qu'on a fait de nos spectacles, je trouve que, comme toi pour moi, je trouve que ça sentait fort qu'on était content d'être sur scène, tu vois. Et ça faisait longtemps. Genre, à ma première scène, je me suis dit, c'est quand la prochaine, tu vois. Genre, j'avais plus envie de rien faire d'autre. Comme si c'était un peu comme parce que je suis un gros geek, donc quand je joue aux jeux vidéo, c'était pareil, tu vois. Mm-hmm. J'étais là en mode, ah ok, j'ai trouvé ce jeu, je veux plus rien faire d'autre.
Okay.
Là, c'était pareil avec le stand-up et c'était un peu perdu, plus en fait. Et là, avec le spectacle, je suis en mode, ah c'est quand la prochaine? Parce que j'avais envie que ça dure encore une heure, tu vois, c'était trop... je crois que c'est ça, c'est se sentir bien sur scène et te dire, ouais, il y a un truc qui se passe avec les gens, mais pas de...
Ouais, pas d'échéance de ouf. Mais moi, je me sens vraiment rencontre, blague, bus.
Encore un bon titre de spectacle aussi. Rencontre, blague.
Rencontre, blague, bus.
Mais je pense être revenu sur un bon échantillon de ce que vous avez fait en stand-up. Et on va pouvoir passer à l'interview name dropping.
Yeah.
Donc là, je vais vous demander à chaque fois un humoriste pour chaque catégorie. Donc peu importe que ce soit un homme, une femme, un Québécois, un Suisse, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Peu importe, mais une personne pour chaque catégorie.
Je suis hyper excité.
L'humoriste le plus sympa que vous avez rencontré?
Red Assaoui, non?
C'est vrai qu'il est très très sympa.
Freddy Tougo.
Mais il y en a trop des trop sympas.
Mais Freddy Tougo est souvent cité en Belgique, dans les plus sympas. Souvent Yacine Bellous pour la France.
Je le connais pas.
Qui est incroyable.
Enfin, je le connais de scène, mais pas...
Pas personnellement.
Pas personnellement.
L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
Guillermo Guise,
pas trop de choc.
Il y en a trop.
Seb Melia.
Je sais même pas si je peux le garder.
Non.
Tu veux que je coupe ça?
Non, tu peux laisser. C'est ton podcast. Attends, qui m'inspire le plus? Il y en a beaucoup qui m'inspirent beaucoup. Le premier, je pense que je vais fonctionner de façon très primaire. Le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Gaëtan Delferrier.
Oh waouh.
Alors que je ferai jamais ce qu'il fait, mais c'est la personne que je dois préférer sur Terre, je crois.
Waouh, ça lui fera plaisir.
Je lui dis tous les jours, hein, vraiment.
Je lui dis tous les jours. Alors ça lui fera pas tant plaisir que ça. Mais encore, mais laisse-moi
tranquille. Lâche-moi la grappe.
Ça fait 18 fois qu'elle vient au spectacle, premier rang.
Non,
jamais vu son spectacle. Mais c'est la personne que t'aimes le plus. Ah mon Dieu.
Je suis un peu impertinente dans mon...
Tu sais, pas la cohérence jusqu'au bout.
Ouais, pas du tout.
C'est mon humoriste préféré. Tu l'as vu en spectacle? Jamais.
Jamais. En fait, j'ai pas envie, je crois.
L'humoriste qui, selon vous, écrit le mieux?
Bah ouais, c'est compliqué comme question. Tu peux répondre aussi, toi. T'aurais dit quoi les deux premiers?
Ouf. Moi, le humoriste le plus sympa que j'ai rencontré, c'est Yacine Bellous.
Okay.
C'est sûr.
Ah ouais.
C'est impressionnant.
Celui qui parle un peu comme Florent, c'est ça? Non, c'est lui ou pas du tout?
Truc, son affiche, elle est trop belle, plein de couleurs.
Ah ouais, j'aime bien, à fond.
Mais
ça s'appelle 2023 ou un truc dans le genre.
Mais il fait un spectacle tous les ans.
Ah, voilà.
Il a fait 2021, 2022, 2023. Et ici, il commence.
Il fait de l'absurde, lui, non?
Ouais, ouais, très absurde. Mais c'est une des meilleures personnes au monde.
Ah ouais.
Court. Genre, quand je discute avec lui, je me dis, je suis pas si gentil que ça.
Alors, c'était déjà très gentil, quoi.
Il faudrait
ouais,
que
ça, c'est vrai.
Gentil. Faudrait que je sois une meilleure personne. Tu vois, tu parles avec Yacine, tu fais.
Ah, ouais. Ah non, c'est chiant ça.
Non, non, mais pas dans le sens, tu te sens pas coupable de te dire, oh putain, je suis.
Ok, c'est pas culpabilisateur.
Il faut que je sois plus, je sais pas, engagé ou quelque chose comme ça. C'est plus, waouh, mais il est trop gentil avec les gens, il est trop, trop cool comment il parle aux gens. Celui qui m'inspire le plus, Adib Al-Khalidi.
Ah ouais.
Moi, c'est mon humoriste préféré tout court.
J'ai regardé un peu des extraits de son spectacle, ça me fait vraiment marrer.
Il est ouf.
Jamais vu.
Et l'humoriste qui, pour moi, écrit le mieux, Kian Kojandi.
Ah, j'avoue.
En termes d'écriture, vraiment le...
Navo, quoi.
Ouais.
Ouais, j'allais dire.
Kian et Navo, ouais. Ce truc d'écriture super précis, super fort. Vraiment en termes d'écriture, ah, ouais. De jeu, de... Vraiment l'écriture, ce serait lui, je pense.
Ouais, c'est dur, hein, de qui écrit le mieux.
Moi, je dirais Lorenzo Mancini.
Lorenzo Mancini, ah. Nice.
Tu l'adores, hein.
Ouais, j'adore.
Mais...
T'as le droit.
Moi, je l'adore aussi. Donc.
Ah ouais.
Je l'ai quand même pas cité comme celui qui écrit le mieux.
Attends, qui écrit le mieux? J'ai envie de dire Aymeric Lompré, mais il écrit pas bien, il est juste marrant.
Ouais, ouais, c'est plus de l'acteur.
Si, c'est fort aussi au niveau.
C'est hyper fort, mais tu vois, c'est beaucoup plus un perso que de l'écriture.
Ouais, okay, ouais.
Enfin, en tout cas, en ratio. Je pense que s'il avait pas le perso qu'il avait, l'écriture serait moins impactante.
Fanny, en vrai. Okay.
Fanny, moi, j'allais dire, j'aime beaucoup. Ouais, je crois,
Fanny Ruel.
Lisa Delmoitier.
Ouais.
En vrai, évidemment, je suis bête.
L'humoriste qui, selon vous, joue le mieux? Celui qui vend le mieux ses blagues?
Ah oh bah Aymeric Lompré alors.
Aymeric Lompré tous ouais. Les deux?
Mais incroyable.
Non,
c'est mon joker.
Simon Gouache, pour moi, celui qui joue le mieux. C'est un humoriste québécois.
Okay.
Je croyais que c'était une question, j'étais à oh là, j'ai pas compris.
Simon Gouache. Non, c'est un humoriste québécois que j'adore. Vous pourrez aller voir.
Ok.
Bon, moi, ça m'intéresserait de regarder.
C'est pas le plus compliqué à comprendre, en plus, en termes d'accent.
Ouais, parce que Adib, c'est déjà quelque chose. Hein.
Ah, moi, j'adore. Mais après, j'écoute du québécois depuis que j'ai,
ah, oui,
que j'ai 15 ans, tous les jours. Je crois que j'écoute un peu de québécois. Donc,
okay.
C'est Adib.
Adib Al-Khalidi.
Ah, ouais. La dernière fois, il m'a repris, il m'a dit, il s'appelle pas Adib. Hein.
Je crois qu'il s'appelait Adi Balkhalidi.
Ah non.
Et ce prénom et nom de famille, c'est très compliqué, un mot aussi.
Parce début, qu'on dit toujours
en un mot, ouais.
J'écoute Adib Al-Khalidi.
Mais ça marche bien, hein.
Ouais.
Adib Al-Khalidi.
Tu pourrais le dire à l'envers, ça donnerait la même chose, peut-être.
Non. Ça termine par « et
». Pomodoro. Un humoriste qui vous a surpris dernièrement. Soit quelqu'un que vous connaissiez pas et que vous avez redécouvert, ou quelqu'un que...
En fait, on peut répondre à Mélia à toutes les questions.
C'est hyper problématique, mon vieux.
Oui, mais justement, je dénonce.
Si je garde que ça du podcast.
Imagine comment foutre la
gueule. Hugo réagit
en
à ces mails.
Il va avoir des trucs pour mettre dans la merde tout le monde. Hein. Si tu fais chier Régis, il a des doses.
J'ai des doses.
Ah ouais, c'est vrai. Tant qu'il a surpris positivement.
Qui vous a surpris positivement, ouais.
Bah, Aymeric Lompré, vu que je le connaissais pas.
Ok.
Hyper primaire. Aymeric Lompré.
Bah, je le connaissais. Oh, tu parlais comme lui.
C'est une bonne découverte.
Ah ouais, je le connaissais pas. Et je suis pas un gros, gros fan au début des humoristes qui... Enfin, tu vois, qui c'est beaucoup du jeu, quoi, tu vois.
Ok.
J'aime pas les humoristes qui crient alors que la blague est pas incroyable. Et,
passion.
Et lui, je trouve qu'il est vraiment bien.
Ça peut être quelqu'un que vous croisez sur les plateaux.
Ouais, mais je réfléchis à ça parce que...
Quelqu'un qui est revenu super fort, où vous dites waouh, il a progressé de ouf.
Qui était super nul et qui.
Non, mais juste tu te dis waouh, il y a du progrès, ou il est revenu avec un nouveau sketch, oh, c'est trop bien écrit. Moi, par exemple, il y a Yuri Nawara. Mm-hmm. Moi, à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il progresse et qu'il devient de plus en plus fort. Et...
Moi, quand on avait joué avec lui à Nivelles. Ouais.
Par exemple, à Nivelles, il m'a vraiment.
Ah, au truc de scout.
Ouais.
Ouais. À Nivelles, je me suis dit waouh, il a pris de l'expérience et.
Mais je crois que le fait de faire MC, ça aide de ouf.
Ça aide de ouf. Ouais.
Alors qu'il était encore en Grinch.
Il était encore tout vert.
Ouais.
C'est vrai.
Il est arrivé tout vert au truc. Et toi, Ilo?
Je sais pas, hein. Je suis trop nul pour répondre aux questions. Attends. Qui m'a impressionné, surprise, il y a pas longtemps, positivement.
Enfin, je sais pas s'il y a la question après, mais il y a des nouveaux que je trouve très bons.
Mais ça peut être ça.
Alice Connard.
Alice Connard.
Oui, mais Oh, tu peux reposer.
Attends, encore un mot. Je connais, j'adore.
J'en ai pas. La personne qui m'a surprise il y a pas longtemps, positivement.
On se refait la question. Nanana. Donc un humoriste qui vous a surpris dernièrement.
Moi, c'est Alice Connard.
Alice Connard.
Vous connaissez ou pas?
Oui, oui.
Bien sûr.
Elle est trop forte.
Ouais, j'ai joué l'autre fois avec elle et franchement, je me suis dit, ok.
Elle a un univers avec des trucs de boîte à tartines qui me flambent.
Vraiment. Ouais, très marrant. Elle sera en première partie le 8 mai.
Et maintenant, je vais vous demander de choisir entre deux humoristes et vous devez me dire lequel des deux vous fait le plus rire.
Ok.
Alors, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas drôle, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre. Ça veut juste dire que ça vous touche un tout petit peu plus.
C'est surtout pour les gens qui écoutent que tu dis ça et qui vont être.
C'est
cités,
ça,
quoi.
Pour pas qu'ils se disent ah, mais il a dit que ça veut dire que l'autre il n'est pas bon. Non, non, non. C'est juste.
On dira ouais. Si c'est nul en plus.
Entre Guillermo Guise et Roman Frécinet.
Guillermo Guise.
Je connais pas très bien Guillermo Guise, donc Roman Frécinet.
Entre Fanny Ruet et PE.
Fanny Ruet.
Ouah.
Fanny Ruet.
Entre Florent Lausson et Gaëtan Delferrière.
Oh, mais c'est dur, ils se ressemblent de ouf, ça se fait trop pas. Oh non. Bah, Gaëtan, malheureusement.
Florent.
J'adore Florent, ouais.
Ok.
C'est en fait un on se les partage.
Ça marche.
PE alors.
Entre Aymeric Lomprey et Reda Saoui.
Aymeric Lomprey.
Reda Saoui.
Nice. Entre Ino JP et Dena.
Dena.
Ouais, Dena, moi j'ai pas assez vu Ino JP.
Ok. Entre Lorenzo Mancini et Nikos.
Nikos.
Lorenzo.
Attends, mais t'avais déjà écrit tous ces noms à l'avance.
Oui, oui.
Putain, c'est ouf parce que c'est vraiment.
C'est un duel, hein.
C'est que des gens dont on a parlé aujourd'hui, quoi.
Mais j'ai bossé, les gars.
Mais Ino JP trop... Dena, je l'avais déjà deviné tantôt dans ma douche.
Ok.
En mode... Attends, non, à la toilette. Ouais, oui, t'avais dit le jeu, je me suis dit Ino JP Dena.
Il a pris une douche chez toi. Douche.
Il est rentré, après. Je peux aller aux toilettes, il s'est pris une petite douche. Tranquille. Nous, on était en train de parler, genre, ça va faire un petit test de son. Et tout dernier choix, entre Guillaume Vouidetant et Sacha Ferra.
Guillaume. Moi j'ai jamais vu de spectacle de Guillaume, il est juste sympa.
Alors en vidéo et sur scène.
Ah, en vidéo, coup... en vidéo Guillaume d'office
ouais,
et en vidéo, scène Sacha.
Sacha. Ouais. Sacha.
D'office.
Ouais, ouais. Okay. Moi j'ai vu le spectacle de Guillaume, c'était très bien.
Oui, mais t'étais minuscule.
Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'il teste pas, il fait pas de plateau ni rien quoi.
Ouais, c'est ça.
Il écrit, il le joue.
Mais c'est vraiment du truc théâtre quoi.
Bah ouais, mais c'est bien, c'est marrant. Mm-hmm. Il est très fort en interaction. Très fort.
Mais même, il est trop sympa, bordel.
Ouais, mais bon. Ça fait pas de lui un bon spectacle.
Mais ça rajoute une qualité à quelqu'un.
Ouais, mais il est très bon.
Attends, il aurait pu être dit dans les personnes les plus gentilles. Il n'y a pas ça comme question aussi, les plus gentils. Guillaume, trop sympa.
Ouais, bon. Très sympa.
Ça marche. Et la dernière question que je pose à chaque fin d'épisode, puisque vous avez écouté tous les épisodes et vous avez été jusqu'au bout, vous savez ma dernière question.
Oui.
Quel est l'épisode préféré?
Ça, c'est le petit piège. Non, non. qui est-ce que vous aimeriez entendre dans le prochain épisode?
Et là, si tu dis quelqu'un qui est déjà passé, t'as l'air super con.
Bah non, c'est juste que t'as pas écouté cet épisode.
Guillermo Guise.
Guillermo Guise.
Aymeric Lomprey.
Aymeric Lomprey est déjà venu dans le podcast.
Non, encore.
Je veux réinterviewer.
Bah alors, Douli.
Douli. Je lui ai envoyé un message, elle m'a dit oui, puis on a essayé de placer une date. Faut qu'on essaie de placer une date. Bah merci beaucoup d'avoir participé au podcast.
C'est
d'avoir
déjà terminé.
À toutes mes questions, c'est déjà terminé. J'ai posé toutes les questions que j'avais prévues. Mais vous avez été super. Merci beaucoup
Régis, c'était trop cool.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Bisous.
Et le mot de la fin, c'est pomodoro. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.